Merci d'avoir répondu à cette invitation pour nos intervenants qu'on va vous présenter successivement. Donc on va commencer par Laurent Bosquet, certains ayant des contraintes horaires. Donc voilà, le principe de Créativité Territoire, vous le savez, des tables rondes, c'est d'avoir des regards les plus croisés possibles. Je pense que cet après-midi, vous serez servi de ce point de vue-là, mais comme d'habitude, mais un peu plus encore. Il y a un peu foule, voilà, mais on va y arriver. Donc je demande à chacun de respecter scrupuleusement le temps d'intervention, de telle sorte qu'on puisse avoir quand même un échange avec les intervenants. Donc, si Laurent Bosquet veut bien se rendre à la tribune, après, on fera appel aux autres. Vous pourrez rester tant que vous serez quatre. Et au bout de quatre, ensuite, on repart. Donc, Monsieur Bosquet est vice-président de l'université délégué au sport et à la qualité de vie au travail. Et j'ai eu l'occasion de le contacter parce qu'un chef d'entreprise de la zone du Futuroscope, le gérant d'Alteora, pour ne pas le nommer, m'avait indiqué qu'il y avait un projet autour de la fédération de sport d'entreprise. Donc voilà, vous avez la parole et c'est 10 minutes.
Merci. Bien, bonjour à tous. Alors, effectivement, il y a un projet qui se construit progressivement avec les collectivités, avec le milieu de l'entreprise et l'université autour du sport en entreprise, mais plus largement de la qualité de vie au travail. Donc en deux mots, l'université de Poitiers, c'est une structure assez ancienne puisqu'elle a été créée en 1431. Il y a 27 000 étudiants et c'est également une structure qui peut être apparentée à une entreprise puisqu'il y a près de 3 000 salariés à l'université avec une diversité de métiers très grande. On retrouve bien sûr des enseignants-chercheurs, mais aussi des bibliothécaires, des ingénieurs, des personnels administratifs, des personnels techniques, etc. Donc, c'est comme une entreprise avec des contraintes de ressources humaines qui sont relativement importantes. Pour ces contraintes, il y a la réglementation qui s'applique. Donc, comme toutes les entreprises de sa taille, l'université a un comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Il y a un service de santé universitaire. Donc, pour respecter la réglementation en termes d'hygiène et de sécurité. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on est en phase avec cette réglementation, mais si on veut aller plus loin et améliorer la qualité de vie au travail, et passer d'une approche centrée sur la maladie à une approche plutôt centrée sur le développement de soi, sur le développement des sentiments de compétence, d'appartenance, eh bien, il faut passer à autre chose et avoir une dimension que l'on appelle, ou une politique que l'on appelle de qualité de vie au travail. Donc c'est ce chantier que l'université est en train de mettre de l'avant. C'est assez nouveau, c'est pas du tout dans notre culture. Et il y avait différentes façons de procéder. Nous, la stratégie que l'on a utilisée, c'est de suivre une norme qui est canadienne, qui s'appelle Entreprise en santé. Donc une norme en différentes étapes, peu importe, là, c'est pas du tout l'objet. Donc c'est un programme pluriannuel avec un plan d'action qui devrait débuter dans les mois qui viennent. Et au fur et à mesure où on a construit ce projet, ça nous a amené à interagir avec un certain nombre d'acteurs du milieu de l'entreprise, avec le MEDEF, la CCI, les collectivités, donc le département notamment, qui est fortement implanté sur la technopole du Futuroscope. Donc on a interagi, on s'est rendu compte que cette problématique, eh bien, elle était commune à tous ces acteurs. Donc, et on sentait que l'université, là, il y avait un contexte où l'université pouvait impulser un élan qui allait être en mesure de fédérer tout le monde. Donc on a cherché un lieu pour incarner cette politique de qualité de vie au travail et de mieux-être au travail. Et ce lieu, c'est un équipement sportif. Donc sur la technopole du Futuroscope, il y a différents équipements. Il y a un gymnase notamment, deux gymnases. Un gymnase qui est à l'ANSMA et François-Xavier qui est un des principaux utilisateurs est présent. Et il y a également un gymnase qui est à côté d'une école d'ingénieurs qui est fermé actuellement parce que c'est un gymnase qui est propriété du conseil départemental, qui est géré par l'université, qui n'a jamais été terminé. Donc la partie sportive a été utilisable à un moment et il y a environ 300 mètres carrés d'installations qui sont nues. Donc c'est du béton, ce sont des parpaings, mais voilà, il n'y a rien. Le gymnase, il est fermé parce que malgré tout, il s'est dégradé un petit peu. Il y a des travaux à engager et l'université ne peut engager les travaux que si elle est propriétaire du patrimoine. Elle ne peut pas l'engager si c'est un autre acteur qui le possède. Donc, eh bien, on a discuté avec l'ensemble des acteurs et notamment le conseil départemental pour faire de ce gymnase le lieu d'interaction entre l'université, l'entreprise et les collectivités autour de la qualité de vie au travail. Donc bien sûr, le sport va jouer une place centrale, parce que c'est un équipement sportif, mais c'est une approche qui ne va pas se limiter au sport. Donc c'est un projet qui va être co-construit. Donc certes, l'université va impulser, mais ça va vraiment être de la co-construction avec les collectivités, avec le milieu de l'entreprise, et notamment sur la Technopole du Futuroscope, c'est l'Association des entrepreneurs du futur, qui regroupe donc l'ensemble de ces acteurs. Donc voilà, un projet qui va être co-construit pour décider ensemble ce que l'on va faire de cet équipement. Donc le gymnase, bien sûr, va rester un équipement sportif, mais il y a 300 mètres carrés à aménager. Donc probablement qu'il y aura des espaces autour de l'activité physique à nouveau, probablement qu'il y aura un espace autour de, enfin, une cuisine pédagogique ou de quoi animer des ateliers autour de la nutrition, de l'alimentation, et puis des espaces modulaires qui permettent de faire un peu tout, des réunions, d'animer des ateliers de gestion du stress ou des choses comme ça. Néanmoins, aucune décision n'est prise. Il convient d'abord d'en discuter avec l'ensemble des acteurs. Donc ce projet avance sur de bons rails. Il y a malgré tout quelques conditions. Une des conditions que j'ai mentionnées, c'est que l'université, pour engager les travaux, doit être propriétaire. Donc actuellement, le conseil départemental est en discussion très rapprochée avec l'université pour discuter des conditions de cession de cet équipement pour qu'on puisse engager les travaux. Donc ce lieu, c'est un projet que l'on espère à 2 ans, ou on espère moins de 2 ans en tous les cas pour que les travaux soient finis. Mais vous voyez, c'est un équipement sportif qui va permettre de développer cette interaction autour de différents acteurs de la vie économique, universités, entreprises, les collectivités, sur une problématique qui n'est pas seulement sportive. Donc c'est quand même tout un symbole. Et puis c'est un lieu aussi qui se voudrait être un lieu d'innovation. Donc on parle beaucoup de sport en entreprise. Souvent on se trompe d'entrée quand on parle de sport en entreprise. C'est pas une finalité en soi le fait du sport en entreprise, de faire du sport en entreprise. La finalité, c'est de développer la qualité de vie au travail. Le sport est un des leviers, n'est pas le seul, il y en a de multiples autres, mais c'est quand même un des leviers. Donc les entreprises qui ont cette entrée uniquement sport en entreprise, souvent elles ont du mal à pérenniser ces actions parce que ça s'inscrit pas dans une politique globale. Et le hasard peut faire que leur projet va fonctionner parce qu'il y a déjà un certain nombre de conditions qui étaient respectées par ailleurs, mais qu'ils n'avaient pas pris la peine de vérifier. Donc, mais il se trouve que ça peut fonctionner. Et souvent, quand ces projets ne fonctionnent pas, c'est justement qu'il y avait d'autres problèmes qui n'étaient pas réglés. Bon, des problèmes qui peuvent être de multiples natures. Bon, souvent, ce sont des problèmes sociaux, soit de reconnaissance salariale, soit d'organisation du travail dans l'entreprise, de pratiques organisationnelles, etc., qui font que tant qu'on n'a pas réglé ces aspects, ce n'est pas la peine de proposer autre chose aux collaborateurs. Ils diront que c'est de la poudre aux yeux pour régler les problèmes. Donc voilà, la condition pour que le sport en entreprise fonctionne et que ces équipements puissent servir vraiment de vecteur pour dynamiser cette activité, c'est vraiment d'avoir une approche qui est un peu au-delà du sport, une approche plutôt qualité de vie au travail. Les quelques chiffres que l'on a actuellement pour motiver les entreprises, l'entreprise cherche avant tout à faire du bénéfice, donc sa performance à elle, c'est le chiffre d'affaires. Eh bien, les quelques données que l'on a, qui ont été proposées par une enquête réalisée par le CNOSF et le MEDEF, c'est que pour 1 euro investi, une entreprise qui s'engage dans le sport en entreprise peut récupérer entre 6 et 9 euros. Quand on regarde les chiffres à l'international, c'est très surprenant. C'est énorme comme bénéfice. Il est peu probable que toutes les entreprises en moyenne puissent avoir un tel retour sur investissement. Donc probablement que l'étude a eu lieu, donc il ne s'agit pas de remettre en cause bien sûr les chiffres proposés, mais c'était probablement des typologies d'entreprises très très spécifiques, mais on ne peut absolument pas généraliser. Donc pour motiver l'entreprise, eh bien, il faut qu'elle sache, qu'elle ait une idée plus précise du retour qu'elle pourra avoir sur son investissement. Et c'est là où ce lieu d'interaction que l'on souhaite construire sur la Technopole du Futuroscope va prendre tout son sens, dans le sens où ce qu'apporte l'université, ce sont également ses laboratoires. Et avec les laboratoires, la capacité de réaliser ces évaluations coûts-bénéfices pour l'entreprise, de réaliser par exemple des tableaux de pilotage qui intègrent un certain nombre d'indicateurs spécifiques qui permettront à l'entreprise après de voir exactement quel est son retour pour pérenniser les actions. Donc Voilà en deux mots ce projet. Je pourrais revenir éventuellement sur la politique, sport, qualité de vie au travail de l'université. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un équipement sportif qui est à la base d'une interaction qui devrait être assez dynamique, du moins en rencontrant les différents acteurs, on a l'impression que la mayonnaise prend bien et que maintenant tout le monde est sur le qui-vive pour lancer le projet. Donc c'est un équipement sportif qui est à l'origine d'une interaction qu'on voit assez peu entre les différents acteurs, et là donc l'université, les collectivités et le milieu de l'entreprise. Donc voilà en deux mots, je pourrais en parler très longtemps, mais je préférais vous donner uniquement les grandes lignes pour éventuellement après pouvoir interagir sur les questions que vous auriez à poser.
Merci Monsieur Bosquet pour le temps respecté et puis l'échange possible et les questions. Moi j'en ai une peut-être pour lancer un peu. On est dans la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine. On nous promet l'entreprise, l'industrie du futur. Est-ce que justement... cette notion de sport et d'entreprise ne fait pas partie de cette entreprise du futur?
Alors, tout à fait. Et encore une fois, au-delà du sport et de l'entreprise, l'entreprise du futur, c'est une entreprise qui intègre la performance sociale dans l'entreprise. Donc, on va en parler souvent de responsabilité sociétale de l'entreprise ou des organisations, comme l'université, par exemple. Donc, les entreprises du futur sont des entreprises qui innovent dans ce sens qu'elles intègrent dans leur modèle cette dimension. Et on ne va pas seulement être sur la performance monétaire, on va être également sur la performance sociale. Donc, à partir de là, l'entreprise du futur, effectivement, se doit de l'inclure. Du moins, d'inclure cette dimension. Après, quelle est la place exacte du sport? À mon sens, du sport et de l'activité physique, ce n'est pas toujours de l'activité sportive, mais à mon sens, ça dépend. Ce n'est pas forcément systématique. On doit avoir une approche qualité de vie au travail, donc sociétale. Je pense que la plupart du temps, l'activité physique et les fédérations peuvent apporter des éléments de réponse, mais ce n'est pas systématique. Ça dépend de la typologie de l'entreprise.
Une question, et vous vous présentez en même temps, c'est pour l'enregistrement.
Mathieu Fayère, de l'Université de Nantes. J'interviens moi aussi sur la qualité de vie au travail dans mon établissement, et je me pose justement les questions sur les leviers qui permettent à un contexte de devenir favorable. Parce que je vous rejoins totalement sur l'idée que ce n'est pas d'apporter l'activité physique pour apporter une plus-value. Il faut déjà répondre aux différentes problématiques de management et autres pour permettre un contexte favorable. Mais est-ce que vous avez travaillé sur ces outils, des éléments qui permettent d'évaluer les critères ou les éléments qui vont permettre de créer un contexte favorable?
Tout à fait, oui. Alors là, on revient plus sur la politique qualité de vie au travail de l'université et cette norme dont je parlais, norme canadienne. Elle prévoit 5 étapes. La première étape, comme toutes les normes, c'est de respecter la réglementation en vigueur. C'est celle par laquelle j'ai commencé, donc le fait d'avoir un CHSCT, enfin un comité hygiène, sécurité, conditions de travail, bon, voilà, un certain nombre de dispositions réglementaires qu'il faut respecter. La deuxième étape, bon, c'est de constituer un comité avec une typologie particulière, je peux aller beaucoup plus loin. Et la troisième étape, eh bien, c'est une démarche qui se veut ascendante. Donc on part vraiment des préoccupations, soit de l'entreprise, donc nous on parle plutôt de la communauté universitaire, mais il faut partir des aspirations de la communauté ou de l'organisation de façon générale. Ça ne peut pas être une approche descendante. Donc, moi je suis fortement impliqué dans le milieu du sport et des sciences du sport, donc c'est évident que j'aimerais pousser au maximum le sport. Mais si je le fais... ça risque d'être contre-productif parce qu'il peut y avoir aussi un mouvement de résistance. Donc non, il faut vraiment partir des préoccupations de la communauté. Donc là, il y a des outils pour cela. Nous, on vient tout juste de terminer la phase de consultation avec un questionnaire de qualité de vie au travail. Donc ce sont des questions fermées avec différentes dimensions. Il y a également des questions ouvertes. Donc ce qui va nous permettre d'avoir une sorte de baromètre de la qualité de vie au travail à l'université. La deuxième étape, là, c'est d'organiser des groupes focus. Donc les quelques questions ouvertes que l'on a nous permettent de déterminer les thèmes que l'on veut approfondir dans les groupes focus avec les différentes catégories de personnel. Et à partir de là, on aura un bilan assez complet. On pourra établir le plan d'action. Et le plan d'action, eh bien, voilà, je pense que le sport et l'activité physique en feront partie. Mais voilà, par défaut, je n'en suis pas encore certain. Donc ça, c'est la première chose pour cette évaluation. Il faut impliquer les acteurs. Donc là, ils vont être impliqués une première fois pour donner leur ressenti, verbaliser leurs attentes, leurs frustrations aussi. Et la deuxième étape aussi pour les impliquer, c'est dans la construction. C'est-à-dire que certes, il y a un comité qui pilote le tout, mais pour chaque axe du plan d'action, eh bien, il y a des groupes de travail qui impliqueront les membres de la communauté qui souhaitent y participer, se retrousser les manches. Donc ça, c'est important aussi pour que ça crée un mouvement, c'est-à-dire qu'il faut également que les personnes soient impliquées dans la construction des projets, pas seulement leur demander à un instant T, ben, comment ça va ? Enfin, je caricature, le questionnaire, c'est pas tout à fait ça, mais ils doivent être doublement impliqués. Donc là, c'est la condition. Si on ne fait pas ça, on aura beaucoup de mal à implanter de façon durable un programme qui intègre, par exemple, du sport.
Merci, Monsieur Bosquet. Vous restez à la tribune et je appelle Isabelle Marteau à venir nous rejoindre. Nous l'avons sollicitée parce qu'elle nous permet d'interroger un phénomène qui s'appelle la marche nordique. Mais au-delà de ça, je pense qu'on lui laisse le soin de se présenter et de nous dire ce qu'elle a envie de nous dire.
Bonjour tout le monde. Donc, je suis Isabelle Marteau. Je vais vous parler de la marche nordique. J'étais il y a 6 ans encore prof de PS et je me suis reconvertie sur une des activités de bien-être, notamment yoga et marche nordique. Je ne suis pas très confortable, voilà, comme ça, ça va être bien. Alors, ah oui, c'est là. Ah là. Ok. Ouais. Ok. Super. Voilà. Donc j'ai pris le parti de vous parler de la marche nordique sur son aspect impact sur la santé et la santé à tout âge. Donc vous voyez qu'on peut sur ces 3 petites photos pratiquer la marche nordique très jeune. Et de façon très sportive sur la photo du... Je vais peut-être prendre ça. La photo du milieu, zut. Et de façon un petit peu plus tranquille pour les personnes plus âgées. Alors, très rapidement, un petit historique. La marche nordique est née en Finlande pour pallier au manque de neige des skieurs de fond qui souhaitaient poursuivre leur entraînement l'été. Ils ont donc mis au point une technique de marche avec des bâtons qui n'étaient pas là pour se... maintenir en équilibre comme on le croit souvent quand on voit des personnes marcher avec des bâtons verticaux, mais bien pour se propulser. La première fédération internationale de marche nordique, c'est INWA, International Nordic Walking Association. Elle est représentée dans énormément de pays, plus de 40, et c'est avec cette association-là que je me suis formée, moi, bien que la FFA propose également des formations de marche nordique. Alors un tout petit mot sur le matériel. Donc évidemment, on utilise des bâtons bien spécifiques. Comme vous le voyez, il y a une petite pointe qui permet d'ancrer le bâton dans le sol, un petit patin lorsqu'on marche sur du bitume ou des terrains plus durs. Et surtout, la spécificité, c'est la dragonne, le lien qui maintient la main au bâton, qui est très particulière. Parce qu'on va pouvoir, on va devoir lâcher le bâton pendant la marche. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Le bâton est en lien avec la taille du pratiquant. Bon, ça, je vais passer les détails. On fait une petite opération taille fois soit 0,68. Enfin bref, les bâtons se vendent par, on se décline de 5 cm en 5 cm. Donc là, par exemple, pour 1,12 m, il faudrait faire le choix de 1,10 ou de 1,15. Bon, je passe les détails. Les chaussures, contrairement à la marche traditionnelle, vont être basses et souples parce qu'on va rechercher... On va rechercher la mobilité complète de la cheville et un travail du pied, du talon jusqu'aux orteils. On va voir ça aussi tout à l'heure. Alors, l'objectif principal d'INWA, et le mien notamment, c'est de promouvoir la santé. On va la promouvoir en améliorant la marche ordinaire. On va avoir un impact sur le système musculaire et articulaire, sur le système cardiovasculaire et respiratoire, sur le système nerveux, sur l'équilibre du poids, la perte de poids si besoin. Donc je reprends les points un par un. Comment améliore-t-on la marche ordinaire? Tout simplement parce qu'on se propulse avec les bras. Donc forcément, il y a tout un travail du haut du corps qui va se mettre en place, qui n'existe pas dans une marche classique. On va allonger le pas beaucoup plus que dans une marche classique également. On va faire travailler le corps du bout des doigts jusqu'aux orteils. Vous verrez aussi quand je vais détailler un petit peu la technique. Et du fait de la propulsion avec les bâtons, on va décharger le poids du corps des jambes. Donc on va soulager énormément les articulations, genoux, hanches. On va étirer, soulager le dos. Vous allez voir aussi comment. La marche nordique permet une marche plus sportive que la marche classique, mais permet aussi aux personnes de moins bonnes conditions physiques de marcher plus longtemps et sur des terrains un petit peu plus compliqués. Alors, comment on va agir sur le système musculaire et articulaire? Déjà, par le travail des bras, donc c'est qui est les fondements de la marche nordique. Alors, je détaille rapidement cette photo. Vous voyez là que le marcheur amène son bras loin devant, tendu, que le bâton est incliné et que le bras de derrière est également tendu avec une poussée sur la dragonne. Alors la dragonne, c'est cette partie-là du bâton qui va permettre, je vous montre très très rapidement, de lâcher complètement le bâton. Je pourrais me passer du micro, hein. Non, ah non, ah oui, d'accord. Ok. Donc déjà, les bras vont vraiment travailler de façon beaucoup plus importante et si je puis dire, en force. Enfin, c'est pas le bon terme parce qu'on va respecter toujours le niveau de pratique de la personne. La petite sapette. Le travail des jambes va être différent également parce que je ne mets pas la bonne maîtrise des PowerPoint, hein, je suis désolée. On va allonger plus le pas. Le fait d'avoir une poussée sur les bâtons va permettre d'allonger son pas et inversement, les deux sont liés. Vous voyez sur cette photo que le marcheur attaque le sol avec son talon, qu'il va y avoir un déroulé complet du pied jusqu'à la poussée sur les orteils. L'allongement du pas et ce déroulé du pied vont avoir des actions sur la musculature différentes de la marche ordinaire. On va solliciter davantage les fessiers qu'en marche traditionnelle. On va solliciter tous les muscles de la jambe de façon aussi plus intense. La marche nordique a des effets sur le dos considérables. Vous voyez sur cette photo qu'on a comme une chaîne, un allongement depuis le pied jusqu'au sommet de la tête. On a un étirement postural qui se fait grâce à la poussée sur le bâton qui va permettre de s'allonger, de s'étirer, de se grandir. Donc on va obtenir un autograndissement. Et en cherchant cet autograndissement, en cherchant à se redresser, on va évidemment renforcer tout le dos dans le plan profond. Vous voyez sur cette deuxième photo le travail des bras donc, qui vont alternativement aller loin devant, loin derrière et pousser sur la dragonne va enclencher une rotation du buste. On le voit très bien, là on voit les épaules qui se tournent, l'axe de la ceinture scapulaire qui se tourne par rapport au bassin, alternativement droite et gauche. Et cette rotation du buste va dénouer les tensions dans le dos, les tensions musculaires, les tensions dues à de mauvaises postures, au travail, etc. Donc, on va avoir un impact, et ça, on a des témoignages régulièrement des marcheurs qui nous disent que leurs problèmes de dos s'estompent avec la marche nordique. Évidemment, cette rotation du buste fait travailler les abdominaux de façon beaucoup plus intensive, notamment les obliques. Enfin, voilà, c'est un travail très complet de tous le buste et des bras. L'impact sur le système cardiovasculaire, donc comme toute activité physique sportive, on augmente le rythme cardiaque, mais des études ont montré la marche nordique allait augmenter un petit peu la vitesse de marche et qu'on allait donc augmenter un peu plus le rythme cardiaque. La circulation va être améliorée, notamment par le fait du déroulement du pied du talon jusqu'aux orteils. On va de façon douce, il n'y a pas d'impact comme en course. On va donc faire exercer comme un massage sur la plante du pied et on va obtenir un retour veineux plus important dans les jambes, ainsi que, là vous voyez bien le déroulement du pied jusqu'aux orteils. De la même façon dans les bras, la main saisissant le bâton à l'avant et s'ouvrant derrière pour pousser sur la dragonne, comme on l'a vu tout à l'heure, va faire qu'on obtient un système de pompe. La main se ferme devant, s'ouvre derrière, se ferme devant, s'ouvre derrière, et donc on active également le retour veineux dans les bras. L'action sur le système respiratoire, outre le fait d'être en plein air et de respirer le bon air, on va pouvoir jouer sur le rythme de la respiration, demander aux marcheurs de synchroniser leur respiration sur leurs pas, en leur donnant, par exemple, de compter leurs expirations, leurs inspirations sur le nombre de pas qu'ils font. Et donc, on va amplifier la respiration, expirer plus longtemps, inspirer plus longtemps, suivant ce qu'on va rechercher à faire, notamment dans les montées, en demandant aux marcheurs de respirer sur vraiment plus longtemps, de souffler longuement, on va leur permettre de ralentir leur rythme cardiaque et donc d'arriver en haut des côtes moins fatigués, moins essoufflés. L'impact sur le système nerveux et psychologique. La marche nordique a un effet anti-stress qui est démontré, et notamment de bien-être. De par la technique, déjà, le fait d'ouvrir les épaules vers l'arrière va provoquer une ouverture du plexus solaire. Et on sait que beaucoup de tensions, d'émotions, d'angoisses se localisent dans cette zone du plexus solaire. Et cette ouverture va donc détendre et relâcher cette zone. La respiration ample et régulière va favoriser aussi la détente. Et évidemment, le lien avec la nature, se promener dans des beaux chemins, des beaux circuits et voir de beaux arbres, du soleil, du ciel, des nuages, ça aide à avoir le moral. La marche en groupe, le sentiment d'appartenance à un groupe, la convivialité, participe aussi au bien-être et au moral. Et puis on a constaté, et ça s'est vérifié, une augmentation de l'estime de soi, par la pratique et la découverte de cette technique qui fait qu'on a un petit plus, on se sent valorisé, mais aussi parce que on va pouvoir, suivant son niveau de pratique, marcher peut-être plus longtemps qu'on ne l'aurait pu avant ou qu'on ne l'aurait pensé. On va retrouver une forme physique perdue. Donc, on se sent valorisé. Et puis, il y a aussi le fait que cette marche en se propulsant sur les bâtons et qui demande un autograndissement va favoriser la posture d'autograndissement, et en se grandissant physiquement, on l'a remarqué, qu'on s'ouvre aussi mentalement, psychologiquement. Voilà. Les effets sur le poids, je vais très très vite, avec ce petit dessin, tout le monde comprend. Quand on rajoute le travail des bras et du buste, tout le corps participe, donc forcément, la dépense énergétique est nettement plus importante. Si vous marchez une heure à 5 km/h sans bâton et une heure à 5 km/h avec bâton, vous aurez dépensé plus de calories. Voilà. Inoua, je me dépêche, décline trois niveaux de pratique dans la marche nordique. Le niveau 1 qui est le niveau santé, pratiqué par le plus grand nombre. C'est vrai qu'on a quand même dans les groupes de marche pas mal de personnes retraitées, mais qui viennent là pour s'entretenir. Le deuxième niveau, c'est le niveau fitness. On va aller un peu plus loin dans la technique, allonger plus le pas, pousser davantage sur le bâton derrière, balancer davantage ses bras. Et là, on va voir des effets musculaires encore un peu plus intenses. Et le troisième niveau, le niveau sport, où là, on va être pas dans la course, mais presque, chercher vraiment la performance. Je vais passer sur le déroulement de la séance, simplement vous dire qu'on démarre systématiquement une séance par un échauffement articulaire. La séquence de marche qui se déroule aussi avec des espaces, des moments de technique. Et systématiquement également, à la fin d'une séance, on va pratiquer des étirements de toutes les parties musculaires qui ont été concernées. Voilà, je conclue en disant que la marche nordique s'adresse vraiment à tout public et qu'elle n'a aucune contre-indication pour la santé. Voilà.
Merci beaucoup, Isabelle. Votre adresse, vos coordonnées ?
Mon adresse.
Vous contacter si on a besoin. Vous contacte où ?
Oui,
vous. Faire la marche nordique.
J'ai pas d'adresse mail pour l'asso. J'ai une adresse mail perso.
D'accord. Bon, donc si les gens veulent. Ils s'adresseront à vous en partant.
Voilà.
D'accord.
Merci.
Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous présentez aussi. Hein.
Bonjour, Denis Allôme. Donc, j'ai une question par rapport aux chaussures.
Oui.
Donc là, vous avez parlé de chaussures sans amorti, chaussures basses.
Je n'ai pas dit sans amorti, j'ai dit souple.
Souple, d'accord.
Souple et basse.
D'accord. Donc par rapport à la course à pied où on a le débat des chaussures avec amorti ou alors les chaussures minimalistes sans amorti, comment ça se positionne par rapport à ça ?
Je ne sais pas, j'en ai aucune idée.
D'accord, mais là on est sur des chaussures du coup qui ont de l'amorti ou pas ?
Des chaussures de sport qui peuvent être des chaussures de trail, de marche, de jogging, mais basses et souples. J'ai pas de réponse pour les minimalistes là, je sais pas.
Bien, écoutez, j'appelle. Alors, je sais pas s'il est dans la salle, Ken Flacha. Ok, parfait. Ben, merci d'être présent. On va aborder un autre sujet. Ça, c'est un peu le lien entre art et sport, je crois. Donc, Isabelle, vous pouvez rester là, bien sûr. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter. Donc, vous avez compris, autre regard croisé, art et sport.
Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Ken Flacha, je vais vous présenter aussi mes collègues, car aujourd'hui je vais vous parler d'un sport qui s'appelle le Voketball. Vous avez peut-être déjà entendu parler, alors je vais chercher déjà le PowerPoint. Du coup, je vais me présenter quand même un petit peu. Donc, j'ai monté une entreprise en décembre de prestations artistiques et sportives. Et dans cette entreprise, du coup, en termes de sport, je présente du coup des sports nouveaux comme le Voketball, le Vince Pong. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, si nous avons choisi de parler du Voketball aujourd'hui, c'est car il utilise une structure bien particulière, donc les City Stades. Et donc, pour ça, je vais vous laisser. Commencer par Thibaut pour vous présenter un peu le Voketball.
Bonjour à tous, donc moi c'est Thibaut, je suis président de l'association Voketball. Donc je vais vous expliquer brièvement un petit peu ce que c'est le concept et le principe du Voket. On attend juste le diapo. Ok. Non, sur le play au milieu.
En fait, le problème c'est qu'il n'y a pas Google Chrome, je crois. Ah si, autant pour moi. Désolé, je vais recommencer.
Je vais commencer rapidement quand même. Donc le volleyball, en fait, c'est donc un nouveau sport qui est né récemment. Il est nouveau, innovant, pourquoi ? Parce que du coup, c'est un sport qui est mixte. Donc, c'est-à-dire que quand on organise des événements, des matchs, etc., les deux équipes doivent être composées d'autant de garçons que de filles. C'est un sport innovant aussi parce qu'il est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on associe du jeu à la main, du jeu au pied, on peut marquer des paniers, on peut marquer des buts. Donc il reprend des disciplines et des règlements de disciplines qui existent déjà. Voilà en gros la description basique un peu du sport. Je vais vous faire un petit point un peu sur l'historique, quand, où, comment c'est né. Donc ça a commencé en 2014 sur Poitiers Sud, exactement à Cap Sud, un centre socioculturel. Donc j'ai élaboré le principe du sport avec un groupe de jeunes. Et petit à petit, on s'est pris un peu au jeu et on a déposé en fait les règles du sport à l'INPI en 2015, l'Institut National de la Protection Intellectuelle. Voilà, on a déposé la marque, on a déposé le sport, et suite à ça, on a créé donc notre association, l'association Volleyball. Voilà, donc depuis le 15 juillet 2015, on peut commencer à faire des initiations, des prestations pour donc diffuser les valeurs de l'asso, le principe du sport et notre pratique. Donc, comment on intervient ? On intervient, comme l'a dit Ken tout à l'heure, à travers des city-stades, donc présents dans plus en plus de communes. Quand c'est pas réalisable parce que les city-stades sont pas forcément praticables toute l'année, donc on adapte en gymnase ou aussi dans des cours d'école, dans ce qu'il y a comme terrain existant. Voilà, donc je vais parler un peu des valeurs de l'asso. L'association, donc nous on utilise en gros le volleyball pour véhiculer les valeurs de notre sport et les valeurs de l'asso. Nous on parle de mixité sociale, de mixité du genre, de vivre ensemble, d'accès aux loisirs pour tous et aussi de respect de l'environnement. Ensuite, sur les actions qu'on a déjà plus ou moins réalisées, donc comme vous le voyez là, c'est les diverses situations, donc City Stade et Gymnase. Donc on est intervenu dans une vingtaine de structures déjà dans la Vienne, à travers donc des écoles, des centres de loisirs, des centres sociaux, des maisons de quartier. On est intervenu au Crêpes aussi, et puis voilà. On est en partenariat depuis cette année donc avec l'UNSS à l'île Jourdain et on parle pour l'instaurer donc l'année prochaine, un peu plus donc sur plus long terme. Et donc du coup nos projets futurs là, c'est donc la photo que vous voyez à Bordeaux, c'est le Volquette Tour en gros. Donc on va faire du Volquette dans toute la région. On a démarché un maximum de structures et du coup à partir de juillet août, on va intervenir à Bordeaux, à Poitiers, à Périgueux, à Saint-Palais, à l'île de Ré et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc je laisse la parole à Tom pour la suite.
Bonjour. Okay. Alors moi je suis le vice-président de l'association Volleyball. Je vais vous parler du nombre de city stades qu'il y a en France. Donc il y en a plus de 5000 actuellement. Il y en a de plus en plus. Donc on les retrouve aussi bien dans les quartiers des différentes villes que dans les communes. On constate que les cities sont plus fréquentés dans les villes que dans les milieux ruraux. Donc nous, notre objectif avec cette association, avec ce sport, c'est déjà le volleyball utilise pleinement le city stade, du fait qu'on utilise aussi bien le panier que le but qui est situé dans le city stade pour nos deux systèmes de marque. On utilise aussi également la piste d'athlétisme pour les city stades qui en possèdent une autour lors de nos échauffements. Donc pour nous, c'est facile d'intervenir, puisqu'on arrive, on arrive avec nos ballons, nos chasubles pour différencier les équipes mixtes, et c'est parti, on peut commencer. Notre but, c'est de redynamiser les cities, des milieux ruraux qui sont un peu délaissés, et également de permettre aux communes, comme par exemple Fleuret ou Ligugé, puisque c'est les communes les plus récentes qu'on a eues, de se rencontrer lors de rencontres sportives ou d'initiation. Voilà.
Ok, donc comme l'a dit Tom, je pense qu'on peut considérer les city-stades comme un facteur social, tout à fait. Et donc, comme il l'a dit, il y a à peu près 5000 city-stades en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que les city-stades, du coup, sont en minorité dans les zones sensibles, donc dans les ZUS, zones urbaines sensibles, à hauteur de 7%, pour ceux que ça intéresse. Et donc justement, voilà, notre but, c'est vraiment nous de redynamiser et d'utiliser justement les city-stades. Par exemple, je vais vous parler de Beaulieu, où par exemple, pour réserver le gymnase, il faut à peu près plus d'une année. donc c'est un quartier de Poitiers, pour ceux qui savent, alors que le City Stade est déserté toute l'année. Donc c'est un peu dommage justement que ces structures, qui coûtent quand même entre 40 et 50 000 euros... Oui ? Non, non, j'ai un peu exagéré mon propos, mais pour avoir vécu à Beaulieu pendant pas mal d'années, je peux quand même vous dire qu'il est quand même un peu délaissé de plus en plus. Bon, après, chacun son avis. Donc voilà, donc aussi on peut voir par exemple dans des city-stades comme Beljouan où il y a plus d'une, je pense qu'on peut dire une 50, soixantaine de personnes qui pratiquent régulièrement et qu'on ne peut pas tous loger sur city-stade, malheureusement. Donc notre but à nous, vraiment, voilà, c'est de créer une dynamique. Voilà, pourquoi pas utiliser les city-stades comme des structures, comme des stades couverts au final. Et donc voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors du coup, nous avons aussi essayé de faire une parallèle. Vu que du coup les city-stades ont des valeurs urbaines, nous avons essayé d'intégrer des valeurs artistiques. Donc grâce à mon entreprise, donc notamment le graphe et les pochoirs, nous leur avons appris du coup pendant les prestations à faire du graphe et du coup des pochoirs sur des t-shirts où ils sont repartis justement avec leurs petits t-shirts tout contents. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou autres.
Bah, comment on joue au catball peut-être ?
Voilà, par exemple. Monsieur le Président.
Alors comment on joue au volleyball, c'est très très simple. Donc, du coup, vous visualisez tous les city stades, donc terrain multisport, il y a des paniers, il y a des buts. Après, je ne vais pas rentrer dans le règlement pur et dur, mais simplement, on a le droit de jouer à la main, on a le droit de jouer au pied, on peut marquer des paniers, marquer des buts. Il y a des règles qui sont récupérées de sports déjà existants, comme le handball, le basket, la règle des appuis, la règle du marché, de la reprise de dribble. Après, il y a des particularités. Donc le règlement est accessible aussi sur Internet si vous voulez vous intéresser. Mais en gros, très très ludique, très très intuitif, parce que du coup, on reprend des sports qui existent déjà, des règlements déjà connus, et puis ça marche. Et le but, nous, c'est de créer de la mixité et se dire qu'en fait, les garçons et les filles pourront chacun apporter différemment quelque chose, mais apporter quelque chose à l'équipe. Voilà.
D'accord. Et Créaplay, alors, c'est une entreprise, si j'ai bien compris. Quel statut enfin...
Auto-entrepreneur. Voilà.
Il y a d'autres questions ?
Bonjour, Eric Schmidt, donc Trotty Country. Moi, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà essayé de proposer cette activité dans les lycées, quoi, en fin de compte ? Parce qu'il y a peut-être pas mal de lycéens ou de collégiens, déjà, qui, à travers les établissements, ont les structures disponibles pour que vous ayez que vous puissiez faire des démonstrations de votre sport pour attirer un peu les gens à vous, quoi. Parce que s'ils ne vous voient pas jouer, il y a ceux qui habitent Beaulieu, les Templiers et tout ça, mais il y a ceux qui habitent à la campagne aussi. Peut-être que eux, ça les intéresse aussi, mais ils n'ont peut-être pas l'occasion de venir vous voir, vous exprimer dans les différents endroits où vous évoluez. Donc c'était juste une question comme ça, si vous avez déjà fait des interventions dans des collèges et si vous avez eu des retours, comment était perçue l'activité par les étudiants, quoi.
Alors il me semble que Tom et Thibault ont à moitié répondu à cette question par le fait qu'il y a déjà eu des interventions à la campagne et que justement les city-stades sont moins utilisés dans les campagnes. Et du coup, l'association reste quand même jeune et basée sur le bénévolat pour l'instant. Je ne sais pas comment ça va évoluer, peut-être que Thibault...
En gros, là, au niveau des, là, on a énormément pratiqué ou fait pratiquer à travers des centres de loisirs, donc principalement avec des publics, on va dire 6-10, 6-12. Et là, c'est depuis cette année où, du coup, on est en partenariat avec un des collèges dans le district de la Vienne. Donc, c'est plutôt autour de Montmorillon, Chauvigny, Lille-Jourdain, où, du coup, là, on est en train d'instaurer donc le volleyball à l'UNSS. Donc, c'est le sport au collège. Voilà, donc sur des mercredis, on est déjà intervenu deux fois à Lille-Jourdain. Et vu que ça a marché, vu que ça a bien pris au niveau des encadrants, au niveau des pratiquants, et bien du coup, là, le 31 mai prochain, on refait la même chose. Cette fois, pas avec deux collèges, mais avec cinq collèges et sur Chauvigny. Donc tranquillement, on est en train de monter. Et les lycées, on n'a pas eu encore de contact, à part un qui nous a contacté via Internet, mais c'est en Belgique. Et c'est une faculté. Donc là, pour parler aussi pour l'année prochaine. Donc on en est là, mais pour l'instant, on a énormément diffusé sur un public, on va dire, de 6-10 ans. Voilà.
Le ballon, bon, j'ai bien compris qu'il était rond. Ouais. La taille, c'est un mix entre la taille d'un ballon de basket et un ballon de foot au niveau du diamètre.
Là, concrètement, nous, on aimerait bien en fait créer notre ballon. C'est compliqué, c'est coûteux, donc c'est pas notre projet premier. Mais là, en fait, si vous voulez, on utilise un ballon de foot, mais pas un vrai ballon de foot, un ballon de foot plus léger, c'est-à-dire un ballon qui rebondit, qui fait pas trop mal non plus, parce que du coup, on peut faire des transitions main-pied. Donc le ballon peut rapidement faire mal, en fait. Donc même avec des enfants en bas âge, on joue avec des ballons plus souples, des ballons en mousse, et on est aussi dans l'attente de pourquoi pas créer notre prototype à un moment.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que vous avez des liens avec les sciences du sport ?
Pardon. Oui, du coup, nous, on trouve que l'intérêt aussi de ce sport, c'est qu'il est, il sollicite énormément les parties du corps, que ce soit mains et pieds. Et donc, il est hyper, ça permet aux pratiquants d'être polyvalents. Et puis, c'est hyper intéressant pour les enfants en bas âge de débuter par une activité comme ça. Quoi.
Voilà. Parce que vous avez M. Bosquet, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est peut-être l'occasion.
Alors moi, je l'ai eu comme président du coup d'université.
Ah, il marche, excusez-moi. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et vous parliez du Vinspong tout à l'heure. Le Vinspong, parallèlement à son développement dans les écoles, s'est développé aussi à l'université, puisqu'il a été utilisé dans les enseignements des étudiants de la faculté des sciences du sport pour qu'ils connaissent l'activité et après puissent l'enseigner. Donc c'est vrai que ce sont des innovations qui sont intéressantes, qui peuvent intéresser la fac, qui peuvent intéresser l'université aussi pour la vie étudiante, en dehors des études dans la faculté des sciences du sport. Donc il y a probablement des contacts à établir, surtout qu'il y a un city-stade qui va être construit là dans les mois à venir, à côté du complexe sportif qui est en face de la faculté. Donc il y a un terrain propice à communiquer, comme le disait M. Schmitt, pour faire connaître l'activité.
Bonjour, est-ce que vous avez un site de l'association ?
Oui, alors on est principalement sur les réseaux sociaux, donc Facebook, donc à travers simplement le Vocketball. Ensuite, il y a Instagram aussi pour les suites photos. Et là, il y a notre site internet qui va arriver donc, dans le mois, donc ce sera aussi Vocketball. Le site n'existe pas encore, mais il sera affiché sur le Facebook, par exemple. Voilà.
Non, c'est parce que voilà, Céline pose une très bonne question, parce que nous diffusons l'information, évidemment, au-delà des gens qui sont présents, c'est tous ceux qui ne peuvent pas venir et qui peuvent être intéressés par votre démarche.
On a aussi un Gmail, du coup, pour tout ce qui est un peu administratif ou prestations. Je peux vous le donner. Donc, c'est vocketball.association@gmail.com, tout simplement.
Oui, René Peintureau, ville de Poitiers et Grand Poitiers. Je suis aussi jury du BPJEP Activité Physique pour Tous, et c'est vrai qu'on s'aperçoit lorsqu'on fait des jurys que de plus en plus le Vinspong est utilisé comme activité support. Peut-être qu'il serait intéressant effectivement de renforcer les contacts avec le CREPS pour développer cette activité, puisque il est toujours intéressant de travailler sur des activités émergentes comme celle-ci. Il y en a un certain nombre d'autres, mais ça peut être intéressant, notamment pour des gens qui vont devenir des professionnels du sport et qui pourront ensuite développer ces activités.
Ouais, du coup, nous, on intervient à peu près une fois par année au CREPS, parce que moi, j'ai passé un BPJEPS là-bas aussi, Sportco, et donc, du coup, je suis resté en contact avec mes formateurs et pour aussi nous donner un coup de pouce et un petit coup d'aide et nous faire intervenir sur des formations. Et on intervient aussi avec les CMEA et les Franca sur des formations BPJEPS aussi LTP. Voilà.
Parfait. Je vous propose à Monsieur Mathieu Fayer donc de nous rejoindre. Si vous voulez, voilà, vous restez avec nous, bien sûr. Hein. Je pense que votre innovation est intéressante et mérite d'être soutenue. Donc Monsieur Fayer, c'est un autre sujet aussi hein, qui est assez curieux dans le domaine du sport, je pense, innovant. C'est la notion de Fab Lab. On en entend beaucoup parler. Il y a d'ailleurs toute une semaine, je vous le signale, dans le cadre de la Foire Expo, qui est dédiée aux start-up et Fab Lab aussi, avec André Brouchet, donc Fab Lab Sport.
Bonjour à tous. Donc Mathieu Fayer, je représente l'association Saint-Nazaire Ville Sport, puisque le projet dont on parle de Lab Sport en fait, se situe sur ce territoire. Donc par rapport à la thématique du jour, je vais essayer de mettre en évidence comment, à travers ce projet, on peut avoir une mise en réseau d'un territoire et au sein d'un projet justement de Fab Lab pour l'activité physique adaptée. Donc tout d'abord, d'où vient ce projet ? Donc à l'origine, on est trois à la création de ce projet avec des personnes qui sont investies localement dans le domaine du sport et qui ont des compétences complémentaires malgré des parcours différents. Donc tout d'abord, il y a Pascal Casari qui est enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, qui est notamment investi dans les domaines des capteurs, des matériaux composites. Il a été champion d'Europe de voile et donc travaille plutôt sur la thématique de la voile. Il a travaillé par exemple avec le bateau néo-zélandais sur l'America's Cup. Peut-être que certains le connaissent, il intervient avec le CAIPS aussi un peu de temps en temps, donc voilà, localement. Cédric Mollet, qui est ancien entraîneur de l'équipe de rugby de Saint-Nazaire qui évolue en Fédéral 1. Il est préparateur physique également de l'équipe de volley de Saint-Nazaire et qui a évolué en Liga, et qui est maintenant en Ligue B et qui est gérant d'une salle de CrossFit. Et enfin moi-même, Mathieu Fayer, donc qui suis enseignant d'EPS et plutôt spécialisé dans l'athlétisme. Alors notre idée, c'est de répondre à un besoin de société qui va être de promouvoir et de rendre accessible la pratique de l'activité physique pour des populations qui rencontrent des difficultés d'offres adaptées. Voilà, on se rend tous compte dans notre quotidien que la pratique d'activité physique est un plus, peut apporter énormément, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, que ce soit dans la qualité de vie au travail, dans le bien-être des différentes personnes. Malheureusement, cette pratique est rendue difficile parfois pour certains publics, en tout cas nécessite des adaptations qui ne sont pas toujours possibles. Et en tout cas, nous, on souhaite pouvoir, sur notre territoire, agir pour la rendre la plus accessible possible. L'objectif va donc être de répondre à la fois à des enjeux économiques, mais également sociaux, par l'intelligence collective, dans une démarche collaborative. Donc ça, c'est vraiment l'idée des modèles des Fab Labs. Alors pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas les Fab Labs, ça vient du numérique, l'idée étant de mettre à disposition du matériel de pointe à des publics différents. Et typiquement, des enseignants-chercheurs, des entreprises, des particuliers, des étudiants, qui collectivement vont utiliser ce matériel, innover ensemble pour produire des startups ou autres. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir ce modèle-là, mais dans l'adaptation pour l'activité physique. Alors le LabSport, donc c'est de la recherche et du développement en sport, santé et handicap. On s'intéresse principalement à trois publics qui ont un besoin d'activité physique adaptée de notre point de vue. Il va s'agir des personnes en situation de handicap. Handicap étant envisagé dans le sens et l'acception la plus large. Donc handicap moteur, handicap physique, handicap social, toutes les personnes qui peuvent souffrir d'ALD, affection longue durée. On va également avoir les seniors qui, de par le vieillissement, peuvent avoir une adaptation de l'activité physique rendue nécessaire. Et également les sportifs de haut niveau qui, de par leur pratique, sortent du lot commun et ont besoin également d'adaptation et de technologies de pointe pour pouvoir développer leur pratique et leur expertise. Et sachant qu'en plus, ça permet de pouvoir alimenter cette expertise pour les autres publics. Voilà, donc c'est effectivement utiliser également ce vecteur de performance pour les autres publics. Donc il s'agit de mettre en relation donc, des structures médico-sociales. Donc on a des cabinets de médecins, on a des centres de rééducation, les cités sanitaires, qui vont identifier des personnes, des patients, qui vont avoir un besoin d'activité physique adaptée et donc qui vont les orienter vers notre structure. On a des enseignants-chercheurs, comme on a pu voir Pascal, avec les laboratoires notamment du STAPS. Donc nous à Nantes, l'Université de Nantes, c'est le mouvement Interaction Performance Laboratoire avec lequel on travaille, qui vont pouvoir apporter leurs compétences et leurs connaissances à destination de ces publics. Et en aval du projet, on a tout ce qui est association, des personnes qui œuvrent déjà dans le domaine du sport santé, qui proposent du sport adapté, du handisport, qui proposent différents types d'activités et qui vont pouvoir accueillir ces personnes dans un second temps. L'idée pour nous étant de pouvoir être justement un trait d'union entre ces structures médico-sociales et ces associations qui œuvrent dans le quotidien, en permettant d'accueillir ces publics, en leur proposant du coup des évaluations, des programmes adaptés pour les remettre en rééducation et potentiellement ou en conditions physiques pour déterminer leur motivation, pour déterminer leurs capacités et pouvoir les orienter vers les bonnes structures, les bons éducateurs pour qu'ils puissent avoir une activité qui soit pérenne dans le temps, puisque le bien-être et l'apport que va proposer l'activité physique ne sera possible que si elle est pérenne et qu'elle est dans le temps et dans la durée. Donc il faut s'assurer que ça puisse être réellement le cas. Donc voilà, très rapidement, hein, je vais vite, le temps est pressé. Donc concrètement, on travaille sur un projet à 3-5 ans pour la création d'un bâtiment. Donc on a les plans, on a d'ici 15 jours, on l'aura en réalité virtuelle. Donc dans une autre présentation, je pourrais vous le présenter avec des lunettes. Voilà, avec l'idée de travailler donc sur la mutualisation des compétences, la mixité sociale en permettant à des publics différents de pouvoir avoir une pratique et de se croiser et de créer cette mixité, et du lien intergénérationnel entre des publics avec des âges différents.
Donc plus concrètement, donc avant d'arriver à cette étape ultime qui est effectivement le projet idéal tel qu'on l'a envisagé, on est en train de mettre en place des exemples concrets et que j'ai appelé de créativité territoriale par rapport à la thématique du jour. Donc on a un premier axe qui va être de travailler sur le programme Saint-Nazaire-Ville-Sport. Il s'agit en fait de proposer, donc de faire vivre l'interaction territoriale entre les structures médico-sociales et les associations en permettant en fait à des personnes qui nous seront proposées, qui deviendront adhérentes de l'association, d'avoir un programme mensuel d'activité proposé par les associations partenaires avec lesquelles on travaille. Donc on a par exemple du volley assis, on a de l'aviron santé, de la marche nordique, on a du karaté, du kick-kong, enfin voilà, du basket, voilà, une dizaine d'activités possibles qui va permettre en fait en gros un multisport adapté avec un système de pictogramme qui permet aux différentes personnes qui arrivent de pouvoir identifier l'activité qu'elles peuvent pratiquer dans le cadre de l'association et de pouvoir essayer, expérimenter le temps qu'ils le souhaitent pour après, à terme on l'espère, aller dans ces associations et avoir une activité pérenne. Voilà. Deuxième action, le kilomètre urbain qui est intégré dans le programme Saint-Nazaire-Ville-Sport qui vise plus particulièrement le handicap social entre guillemets qui s'insère dans le cadre de la politique de la ville, dans un quartier politique de la ville, où en fait il s'agit de recréer un parcours de santé urbain qui utilise le mobilier urbain, les bancs, les escaliers. Voilà, donc on a tracé une ligne jaune en fait au sol d'un kilomètre. Et on a des adaptations, c'est-à-dire qu'on a des seniors qui vont venir, qui vont juste chercher à monter l'escalier, ou en marche arrière, enfin voilà, en fonction de leurs possibilités. Mais on a également des jeunes du quartier, parce qu'on travaille avec la maison de quartier de ce quartier, qui eux vont plutôt être dans la logique parcours entre guillemets. Donc l'escalier, ça va plutôt être le sauter, le banc ou le poteau, ça va plutôt être jusqu'à du drapeau éventuellement pour les meilleurs. Enfin voilà, c'est de faire le parcours ensemble, mais avec des niveaux différents, des vitesses différentes, des exercices qui sont adaptés, mais avec l'idée de le faire ensemble. Avec la maison de quartier, donc en parallèle, on a travaillé sur un accompagnement avec une application qui permet en fait de créer le parcours avec des vidéos que ces différentes personnes vont créer donc, dans un deuxième temps atelier où ils vont pouvoir remplir l'application, la faire évoluer pour que ce parcours en fait, soit utilisable par tout le monde, tout le temps, grâce à ces petites vidéos qui vont permettre en fait, de voir ben, les différents niveaux de réalisation et de pouvoir avoir également un suivi puisque les performances seront enregistrées dans l'application et donc d'avoir un suivi dans le temps. Donc c'est une évolution et surtout c'est co-construit. On revient tout à l'heure à ce qui est important, de pouvoir impliquer les gens dans la co-construction également des ateliers et de ce qu'ils vont pouvoir réaliser. Donc ça c'est un autre axe de travail. On travaille également avec la PEI, donc c'est une association qui œuvre dans tout ce qui est handicap mental. Donc c'est des IME, ESAT, foyers d'accueil, voilà. Et donc on est avec notre stagiaire actuellement en train de faire un audit de leur structure pour déterminer où est-ce qu'ils en sont de la pratique de l'activité physique pour ces populations et avec du coup des pistes de travail pour les accompagner justement dans la mise en œuvre de ces activités, l'évaluation de ces activités pour vraiment s'apercevoir de ce que ça apporte et de comment on peut les faire évoluer, comment on peut progresser et apporter une plus-value. Là, on travaille également avec une enseignante chercheuse sur comprendre et savoir et sur l'aménagement justement des consignes à destination de ces populations pour rendre accessible l'activité physique. Enfin, dernière étape parmi tant d'autres, le crossfit adapté. Donc là, c'est plus effectivement avec Cédric, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, qui a une salle de crossfit. Et donc on travaille, là, on était hier notamment avec des personnes en fauteuil avec lesquelles on a travaillé pour adapter l'activité avec à terme la volonté de pouvoir les insérer dans l'activité commune des adhérents de la salle. Donc ce qu'on appelle les WOD, les Work of the Day. Donc on puisse créer des WOD qui soient adaptés et qu'eux puissent pratiquer avec des personnes lambda. Notre volonté d'aller vers effectivement toujours cette idée de mixité sociale entre tous ces publics de façon à pouvoir avoir une plus-value. Donc ça, c'est des exemples en fait d'actions concrètes qui sont mises en place sur le terrain, qui sont pour créer à commencer justement les interactions au niveau du territoire, de faire fonctionner les différents acteurs ensemble autour d'actions concrètes. Et en parallèle de ça, on pense ouvrir en janvier le premier modèle de Fab Lab. Alors pas celui que je vous ai montré, parce que là, ça nécessite construction de bâtiments, donc des budgets qui sont autres, mais un premier espace dans lequel on aura les premières machines pour les premières évaluations et les premiers projets avec les enseignants-chercheurs pour commencer à monter en gamme tranquillement, faire la preuve du modèle économique, puisqu'on est sur un modèle mixte entre des fonds publics et des fonds privés, voilà, et puis faire fonctionner toutes ces choses pendant 3 ans pour essayer d'avoir à terme un dossier cohérent, complet, et qui permette d'aller trouver des financements privés d'autres natures pour la création éventuellement d'un bâtiment. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Fayet, parce que l'exemple est tout à fait intéressant par rapport à la créativité territoriale. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est face à des administrations, organisations, hein, qui ont leur raison d'être, bien sûr, mais qui fonctionnent souvent en silo, est-ce quelles sont les difficultés ou pas ?
Bah, des difficultés, il y en a toujours, mais on est sur de l'humain. Et à partir du moment où on arrive à trouver les bons interlocuteurs, les personnes qui ont envie de faire avancer les projets, bah, on s'aperçoit que très vite, il n'y a aucun problème. On est tous dans la volonté de faire avancer notre territoire. On est dans l'intérêt général. On porte des valeurs qui sont transversales, qu'on porte, je pense, tous en nous. Donc à partir de là, on n'a aucun problème, au contraire. Le problème, c'est plus de faire face à toutes les sollicitations, parce que finalement, tout le monde a envie de travailler avec nous, et que faut qu'on arrive à trouver une place à tout le monde, et qu'on arrive à structurer l'association et le projet pour que tout le monde, effectivement, puisse y trouver sa place et apporte ce qu'il a envie d'y apporter. Donc voilà, donc c'est plus la problématique qu'on a actuellement, c'est de réussir à structurer.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions ? Des observations ? Sinon, je vais demander à M. Pinturault, mais vous restez,
merci
M. Fayer, hein, vous pouvez rester à la table. Il y a encore de la place. René Pinturault, donc, qui, un point de vue de l'administration territoriale, en l'occurrence, qui a une fonction de coordination, finalement, de tous ces équipements sportifs, de toutes ces actions. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter.
Donc René Pinturault, je suis directeur de la coordination territoriale, c'est-à-dire que j'ai en charge la gestion des équipements sportifs sur le territoire de Grand Poitiers, en sachant que lorsqu'on parle du territoire de Grand Poitiers aujourd'hui, c'est le territoire de Grand Poitiers à 40 communes. Donc je vais vous montrer tout à l'heure la carte, vous allez voir l'étendue du territoire et ce que ça peut représenter. Nous sommes chargés de mettre en œuvre la politique communautaire du sport. Cette politique communautaire du sport se veut être dans un esprit complètement complémentaire, à savoir offrir la possibilité des pratiques sport pour tous, pour tous les citoyens qui souhaitent pratiquer ou avoir une activité physique et sportive. Donc ça peut être du sport organisé avec le milieu fédéral, mais également du sport qu'on va qualifier d'auto-organisé, qui se développe de plus en plus, et notamment un certain nombre de nouvelles pratiques émergentes qui se développent également sur notre territoire. Mais aussi le sport de compétition et le sport professionnel, qui est aussi un autre volet de nos activités, puisque nous avons sur Grand Poitiers plusieurs clubs professionnels qui sont aussi des ambassadeurs du sport et qui permettent aussi de donner des exemples de vie, des exemples de pratiques, et peuvent conduire à amener des jeunes à des pratiques sportives en étant spectateurs du sport professionnel. D'ailleurs, sur la diapo, vous voyez la salle Le Son Body, qui est le temple du volley de Poitiers. Donc, le nouveau territoire, donc à 40 communes, donc ce qu'on appelle dans notre jargon GP40, donc c'est un territoire qui va, vous voyez, de Sensay, là on est à la limite des Deux-Sèvres, jusqu'à l'appui de l'autre côté où on est quasiment à la limite de l'Indre. Donc Grand Poitiers aujourd'hui, Grand Poitiers 40, c'est un territoire qui fait la transversale du département de la Vienne. Et on peut constater en termes d'implantation d'équipements sportifs qu'il y a une grosse concentration au milieu ici, c'est-à-dire Poitiers et la partie Grand Poitiers 13, donc la Grand Poitiers qui existait avant le 1er janvier. Le reste de ce territoire où nous avons un certain nombre d'équipements sportifs, mais on voit que c'est beaucoup moins dense que sur la partie centrale. Cette carte montre qu'effectivement il y a une concentration et une attractivité du territoire sur plutôt la partie la plus urbaine du territoire. Là, sur cette carte, là, vous voyez effectivement Poitiers, où on fait un focus plus important sur les équipements qui sont implantés sur ce territoire-là. Alors, comment nous fonctionnons ? Donc, aujourd'hui, nous fonctionnons dans le cadre d'une direction générale adjointe jeunesse vie sportive. Donc, nos compétences, c'est effectivement la jeunesse, l'activité sportive et les équipements sportifs. Donc dans cette direction générale adjointe, il y a quatre directions, dont la mienne, donc, que vous retrouvez au bout, avec un certain nombre de centres d'activité qui nous permettent de pouvoir gérer l'ensemble des équipements sur ce territoire. La direction que je représente, coordination territoriale, c'est 180 agents répartis sur l'ensemble du territoire pour 280 équipements sportifs que nous gérons au quotidien. Alors, la nouvelle organisation que nous avons mis en place pour nous permettre de gérer ces équipements est organisée autour de 10 centres d'activité avec les responsables qui sont basés sur les équipements sportifs que je vous ai listés sur cette diapo. Donc Michel Amand, que tout le monde connaît, qui est le grand complexe sportif qui est basé sur la commune de Buxerolles et non pas de Poitiers. Le centre aquatique de la Pépinière qui est juste à côté, la piscine de la Grandterie, les piscines de proximité, puisque sur Grand Poitiers à 13, nous avions 5 piscines couvertes, et sur Grand Poitiers à 40, nous avons 7 piscines couvertes, plus 4 piscines d'été. La patinoire et la piscine du Bois de Saint-Pierre. Jean-Pierre Garnier, tout le monde connaît par la salle de Saint-Éloi, qui est le temple du basket à Poitiers. Le stade Paul Rébeillot, les équipements du pays Médusin, enfin de l'ex-pays Médusin, plus particulièrement, plus vraiment, l'ex-pays Vienne et Moulières et Chauvigny, et tout le secteur d'Alunière d'Aquitaine qui regroupe aussi une vingtaine d'équipements sportifs qui sont gérés par un responsable et un agent de maîtrise. Alors, les principaux équipements structurants sur l'agglomération, c'est ceux que je viens citer et qui nous permettent effectivement de proposer une gamme importante d'activités qui sont planifiées. Nous planifions à l'année des milliers et des milliers de créneaux sur l'ensemble des équipements sportifs, mais la gestion, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, les 11 city parks qui sont sur Poitiers. Chaque city park a été mis en place après concertation dans les quartiers avec les habitants, les maisons de quartier, les associations présentes. Et chaque city park a une particularité. Si je prends par exemple le city park du Patis qui est à côté du CHU derrière le C7, donc le grand gymnase universitaire, on a mis en place un équipement parcours. Alors le parcours, c'est issu des films Yamakasi, et donc c'est la première structure en France parcours en extérieur qui a été mis en place. Si je prends le city park du Breuil-Mingo, il y a un petit skate park, etc., etc. Chaque structure mise en place a été mise en place en essayant de répondre aux attentes de la population et en essayant aussi de gérer le multigénérationnel, c'est-à-dire qu'on a mis aussi des balançoires, des jeux d'enfants pour permettre aussi à des familles de pouvoir venir sur ces sites-là. Le petit peut faire de la balançoire pendant que le plus grand va sur les city park s'il peut y aller, puisque notre problème aujourd'hui c'est qu'ils sont suroccupés et que souvent ceux qui veulent jouer peuvent pas parce que la structure est occupée. On a mis en place des chartes qui sont affichées sur Stack City Park où on précise que ça doit à un moment ou un autre tourner et permettre effectivement à chacun de pouvoir les utiliser. Quelques chiffres. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la planification. 460 000 heures de pratiques sportives planifiées sur nos équipements sportifs. 60 disciplines, 270 clubs sur l'agglomération, 280 équipements sportifs, 230 agents sur la DGA et donc 180 avec moi. Et 24 millions d'euros investis dans les équipements sportifs entre 2008 et 2014. Et le plan pluriannuel d'investissement actuel 2014-2020 est de 23 millions, donc on a un certain nombre de projets. Il y a déjà des choses qui ont été réalisées, des réhabilitations d'équipements. Par exemple, pour vous donner un peu une idée, on va faire à partir de l'année prochaine un bassin nordique pour remplacer le bassin de 50 mètres actuel à la piscine de la Grandterie. On a un skatepark qui est prévu pour remplacer ou compléter le skatepark qui existe actuellement à la Cassette. Il y a des réhabilitations de gymnase. Il y en a une qui va partir sur la commune de Ligugé où on va refaire un certain nombre de travaux. On vient de finir le gymnase de Millau-Zance. En début de mandat, on a terminé le gymnase de Piard, etc., etc. Donc on a un programme important de remise à niveau, d'entretien de ces équipements. Et bien sûr, les équipements qui ont été intégrés dans l'agglomération actuelle l'ont été intégrés aussi avec des budgets qui vont nous permettre aussi de mener des actions sur ces équipements-là. Donc, pour donner un peu une idée, la population sur ce territoire-là, maintenant, est de 195 044 habitants. Et la communauté d'agglomération et la future communauté urbaine, dans peu de temps, ont sur le territoire des compétences regroupées dans 7 domaines, dont les équipements d'intérêt communautaire, sportifs, socioculturels et culturels. Donc on travaille dans ces domaines-là et avec ces compétences-là. La pratique sportive, donc les missions traditionnelles du service des sports concernent les équipements sportifs utilisés en majorité par les clubs sportifs, les scolaires, mais les équipements sportifs, gymnases, stades, salles spécialisées mis à disposition des clubs offre la possibilité aux citoyens de pratiquer de nombreuses activités sportives. Donc une ville bien équipée ou un territoire plus large comme un établissement public de coopération intercommunale est attractive par le cadre de vie. Par exemple, on sait qu'une entreprise qui va venir s'implanter sur un territoire va regarder si effectivement il y a des moyens de transport, mais aussi si le cadre de vie permet aux salariés qui vont arriver venir travailler sur ce territoire, s'il y a des piscines ou s'il n'y en a pas, s'il y a des équipements sportifs, des équipements socioculturels, des équipements culturels, donc des équipements sportifs de qualité contribuent à l'attractivité du territoire. Et dans le cas de l'attractivité du territoire, en plus des équipements, il y a effectivement tout ce que l'on va proposer en termes d'activité. Alors, il y a ce qu'on va proposer à l'ensemble de la population avec des opérations qu'on met en place pendant les vacances scolaires, comme par exemple le passeport, qui permet à tous les enfants de l'agglomération d'accéder à nos piscines gratuitement, 4 jours par semaine, et de bénéficier des transports gratuits pour se rendre sur ces piscines. En période hivernale, avec le même passeport, les jeunes ont la possibilité d'accéder à la patinoire gratuitement. Alors sur des créneaux précis, évidemment, hein, mais c'est des accès tous les jours. Nous avons aussi, avec nos 50 éducateurs territoriaux des activités sportives, physiques et sportives, des propositions d'activités dans les quartiers ou sur nos salles spécialisées, gratuitement également, pendant les périodes de vacances scolaires. Nos éducateurs interviennent aussi en partenariat avec les maisons de quartier pour faire un travail périscolaire ou extrascolaire. Donc tout ça aussi contribue à l'offre de services publics qu'on met à disposition des populations, mais également toute la partie événementielle sportive participe effectivement aussi à l'attractivité du territoire, et les grands clubs qui sont sur nos territoires y participent pleinement, comme le PB86 pour le basket, le 7 Poitvin 20 Volley Beach pour le volley, le TTACC qui concerne le tennis de table, et puis des événements majeurs tels que le marathon Poitiers Futuroscope, l'Urban PB qui est un événement important qui a lieu effectivement sur la place de l'hôtel de ville, mais pas uniquement, également dans les quartiers. Et nous venons juste récemment là, d'inaugurer un nouveau playground en partenariat avec EDF qui nous permet aussi d'une offre plus importante pour la pratique du basket 3-3. En sachant que peut-être que le basket 3-3 va devenir olympique. Donc c'est important aussi qu'on puisse, dans nos territoires, développer cette pratique-là, qui est une pratique émergente dans le sens où ça se développe, et c'est une pratique auto-organisée où les jeunes viennent pratiquer. Voilà. Et puis nous soutenons régulièrement des grandes manifestations de l'UNSS, je pense notamment Et si on joue au foot, qui rassemble 1500 collégiens sur les terrains de football de Michel Amand, et puis un certain nombre de manifestations universitaires. On va recevoir une bientôt sur le stade Rebaillot sur un championnat de France universitaire. Voilà. Et puis nous collaborons étroitement aussi avec des structures importantes sur notre territoire telles que le CREPS et l'université. Donc les pratiques évoluent, je le disais tout à l'heure. Nous avons depuis un certain nombre d'années développé la création des city parks, mais nous travaillons également sur d'autres activités émergentes. J'ai parlé tout à l'heure du parcours, mais on vient aussi, il y a peu de temps, d'inaugurer une structure street workout au Couronnerie, en face de la maison de quartier. C'est une structure qu'on a mis en place à la demande de jeunes du quartier, et lorsqu'on passe devant, c'est à côté du grand boulodrome Pierre de Coubertin, et bien à côté vous avez toujours des jeunes, alors dans les horaires effectivement où ils sont disponibles, hein, mais on voit qu'il y a une utilisation importante de ces structures. On est parti, je l'ai dit tout à l'heure, sur un grand skatepark de l'agglomération structurant qui va compléter ce que nous avons déjà à la cassette, où on pourra pratiquer les quatre activités qu'on peut avoir sur cette structure-là, c'est-à-dire le skate, le roller, la trottinette et le BMX. Donc nous devons en permanence nous adapter pour répondre à l'ensemble des demandes, mais évidemment cette adaptation se fait dans le cadre de nos possibilités budgétaires. Donc je disais tout à l'heure en préambule, donc la politique municipale communautaire du sport, c'est ne jamais opposer le sport de masse et le sport d'élite, puisque nous sommes dans le cadre d'une complémentarité. L'investissement pour la réhabilitation des équipements sportifs, la création d'équipements sportifs nouveaux suite à la concertation dans les quartiers, le passeport, j'en ai parlé tout à l'heure, le soutien aux clubs sportifs, davantage d'événements sportifs avec un rayonnement national et davantage de sport loisirs, développement du sport santé, sport sur ordonnance notamment. On a travaillé, on s'est rencontré avec, avec Rémi, et qu'il y a déjà des associations qui, dans le cadre du sport santé, utilisent nos équipements sportifs que nous avons mis gratuitement à disposition. Je vous remercie.
Merci Monsieur Peintureau de ce tour d'horizon complet. D'ailleurs, peut-être une question qu'on pourrait se soulever aussi, hein, je vous la livre, puisqu'on est dans une séance de créativité. Vous savez que le président Rousset dit souvent au député-maire, M. Claes, qu'il faut que Poitiers envisage son avenir, puisque évidemment, elle n'est plus capitale régionale, comme vous le savez, et donc il faut créer de l'emploi, de l'entrepreneuriat. On a la chance d'avoir des jeunes qui montrent un peu l'exemple. Donc peut-être qu'il y a des... Voilà, c'est des pistes. Hein. On a parlé de Fab Lab, on a parlé de start-up. Il y a peut-être quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut que le sport porte sur ses épaules toutes les responsabilités de l'emploi à Poitiers, mais peut-être qu'il y a des pistes de travail à imaginer. Voilà. Enfin, une remarque un peu de créativité. Et dans les perspectives aussi, vous avez évoqué les nouvelles formes. On pourrait pas parler du e-sport, mais je sais qu'il y a quelqu'un à la mairie de Poitiers qui travaille justement sur le e-sport. On voit aussi le phénomène des drones. Peut-être qu'il y a des choses à imaginer autour de ça. Voilà, on est dans la créativité. Hein. Et on va le suivre tout à l'heure avec quelques initiatives assez intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ?
Juste par rapport à ce que vous dites, donc l'administration, donc les gens comme moi, on est là pour mettre en œuvre la politique municipale et communautaire du sport, mais effectivement, les gens qui veulent développer des activités, moi je vous invite à prendre contact avec nos élus qui sont là, effectivement, pour développer les différentes activités et faire évoluer la politique qu'ils veulent mettre en place.
Des questions, des remarques ? Sinon, on va continuer hein, sur notre forum. Vous pouvez rester à la table, Monsieur Peintureau. Et je vais donc appeler Eric Schmitt, qui est créateur, en fait. Hein. On peut dire ça comme ça. Et vous allez nous présenter votre création.
Alors, bonjour à toutes et à toutes. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Eric Schmitt. Donc, moi, je suis le président et créateur de Trotted Country, parce que je suis tout seul pour l'instant, donc c'est vite fait. Voilà, donc j'ai créé ma société l'année dernière au printemps, au mois d'avril, suite à la visite d'un salon qui était réservé au sport de montagne. Parce que moi, j'ai toujours pratiqué pas mal de sports et notamment le VTT de descente. Et en allant découvrir ce salon, j'ai fait connaissance avec un ancien champion de descente de VTT qui maintenant depuis une dizaine d'années a développé ses trottinettes de descente tout terrain. Donc les premières n'avaient pas du tout d'assistance électrique vu qu'on remontait en haut de la station avec le télésiège ou avec le télécabine. Et puis une fois qu'on était arrivé en haut, on faisait que du dénivelé, on arrivait en bas et on recommençait. Donc voilà. Après, j'ai pris donc un rendez-vous pour pouvoir les utiliser sur site, parce que quand je les ai vus sur le salon, J'ai été attiré par l'engin, je trouvais le jouet sympathique, mais j'avais envie de voir si ça correspondait à mes attentes. Donc j'ai obtenu un rendez-vous avec lui, j'ai essayé les différents modèles, parce qu'il y a un modèle une roue motrice seulement, et celle-là c'est des modèles deux roues motrices, donc qui permettent vraiment une pratique polyvalente et sur différents types de terrains. Donc après l'idée, c'était tout simple, j'ai vu que c'était un jouet sympa, mais pas très accessible parce qu'on est sur le prix d'un VTT de descente, donc aux alentours de 3 500 € TTC. Et après l'idée que j'ai eue justement par rapport à la mixité sociale, je me suis dit il n'y a pas de raison que ça me plaise à moi la trottinette à assistance électrique, sans permettre à d'autres gens éventuellement qui n'auraient pas les moyens d'en acheter, à travers la location, de découvrir ce nouveau sport et cette nouvelle activité. Donc j'ai décidé de créer ma boîte, d'acheter un parc de 6 trottinettes, parce que j'ai fait comme tout le monde, j'étais à la chambre des métiers, j'ai fait une étude de marché, on s'est rendu compte qu'avec un parc de moins de 6, c'était un petit peu compliqué. Et pour responsabiliser cette pratique, c'était uniquement de l'encadrer, à savoir que toutes les balades et les randonnées qu'on propose, de durées différentes et de niveaux différents sont systématiquement encadrés justement pour contrôler l'activité, pour déjà sensibiliser les gens sur les différentes zones qu'on traverse au niveau du biotope, qu'ils aillent pas rouler n'importe où, n'importe comment, voilà. Donc j'ai commencé ça depuis l'année dernière. L'été arrivant très vite, je suis parti sur l'île de Ré aussi développer l'activité parce que malgré tout l'endroit est pas mal aussi quoi. Donc il y a un gros potentiel parce que les gens sont disponibles pour les loisirs, ils sont en vacances. Contrairement à ici, je vous cache pas qu'il y a un pouvoir d'achat qui est un petit peu supérieur à la région aussi. Donc tout ça fait que l'activité a bien démarré là-bas. Mais que moi, étant résident à Montamisé, habitant Poitiers, l'idée c'était quand même de développer cette activité aussi dans la région. Parce que je me suis rendu compte que quand j'allais par exemple me balader en forêt de Moulières, je croisais des gens en vélo, je discutais avec, je leur disais, mais vous avez été voir la tombe à l'enfant? Non, ils ne connaissent pas. Le Grand Soubis, ils ne connaissent pas. Le Trou qui buffe, ils ne connaissent pas. Donc les gens, ils se baladent, en fait, sans aller voir ce qu'il y a à voir. Donc je me disais que c'était peut-être un peu dommage et qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire où on pouvait essayer de mixer quelque chose de sportif, d'activité de plein air, de ludique, et en même temps quelque chose de culturel, mais sans que ça soit de la prise de tête, pour leur permettre de découvrir les choses sympas qu'il y a à faire dans le coin. Donc c'est très intuitif parce que quand on sait faire du vélo, j'ai envie de dire par définition, on sait faire de la trottinette. Il faut juste oublier qu'il n'y a pas de selle. Voilà, et pas de pédale. Mais ça permet à des gens qui n'ont pas obligatoirement la même condition physique au sein d'un groupe de pratiquer une activité ensemble, parce que moi j'ai des copains comme tout le monde, on a tous des amis, mais on n'a pas tous les mêmes capacités, et des sorties en VTT dans les bois, il y en a qui sont capables de les faire pendant 20 km, il y en a d'autres au bout de 5 ils n'en peuvent plus, donc l'idée c'était avec l'assistance électrique justement de permettre aux sportifs, au moins sportifs, de pouvoir faire quelque chose en groupe quoi. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est tout nouveau encore dans la région, donc moi ce que j'attends éventuellement c'est des connexions, des contacts avec soit des centres de loisirs pour proposer cette activité à différentes communes, soit des responsables d'entreprise pour aussi travailler avec des CE pour qu'au sein de, comme on disait tout à l'heure, le sport au sein de l'entreprise, ça peut être une activité qui peut intéresser aussi des patrons pour permettre à leurs employés d'aller prendre l'air et de respirer. Et donc je voulais enchaîner justement en vous montrant si j'y arrive, mais il faut que je les retrouve, ça va pas être facile. Ça va peut-être vous réveiller un peu parce qu'il y a de la musique en même temps, voilà. Alors ça, c'est le site qu'on a mis au point, parce que je l'ai développé principalement pour l'île de Ré, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça représente 80% de mon chiffre d'affaires. Donc j'espère qu'à moyen terme, on sera plus sur du 50-50, mais pour l'instant, on a plus développé l'île qu'ici. Donc il y a toutes les rubriques en haut, voilà. Donc il y a quelques petits rappels voilà, où on explique, vous pouvez lire, que toutes les balades sont accompagnées, qu'il y a différentes durées d'1h30 à 2h, voilà, qu'on s'adapte. Voilà, on a créé une boutique aussi parce que l'année dernière, en fait, quand j'ai commencé à faire cette activité et que je faisais que de la balade, il y a des particuliers qui me disaient « Ouais, c'est génial votre truc, est-ce qu'on peut en acheter ?» Je disais « Oui, on peut, sauf que le fournisseur et le fabricant, ils travaillent qu'avec des professionnels. Lui, son fonds de commerce, c'était les stations de ski. Parce que s'il a développé cette activité, c'était pour permettre aux stations de montagne de proposer des activités l'été quand il n'y a plus de neige pour que les gens continuent, voilà. » Donc après, je me suis rendu compte qu'il y avait des particuliers qui étaient intéressés. Et donc, pour pouvoir aussi avoir le droit de revendre et puis d'entretenir après les trottinettes à ces différentes personnes, on a créé une boutique aussi, voilà. Donc là, c'est les différentes... c'est un petit diaporama avec quelques petites photos de différentes balades qu'on fait dans le coin. Donc c'est vrai que le site est particulièrement agréable. Donc on peut faire des itinéraires partagés. Là, on est dans les marais salants. Là, c'est au banc des bûcherons, vers les ports, pour ceux qui connaissent. Là, c'est à côté des fortifications dans le port de Saint-Martin. Là, on est dans les douves. Donc là, on est dans les bois. Donc ça permet vraiment, ce qui est sympa avec les deux roues motrices, c'est de passer partout, voilà, sur différents types de terrains. On peut en faire aussi, là, c'est en forêt de Moulière. Voilà, alors je sais pas si j'ai un petit... un petit film pour... je sais pas où on va aller le chercher, l'autre... modes qui correspondent à trois vitesses, et sur la vitesse maximum ça file quand même à 45 km/h. Alors par contre, dans la région de Poitiers, ce qui manquerait pour une pratique un peu extrême, on va dire, c'est un bike park, quoi, avec un endroit spécialement adapté, des virages relevés pour faire des sauts. Donc moi, j'en fais là où je trouve que c'est pas mal pour en faire. En l'occurrence, il y a l'ancien terrain de motocross qui est au bord de la 147, qui est devenu un PNU maintenant, l'ancien parc naturel urbain, où là, c'est assez rigolo parce qu'il y a du relief. Il y a un petit terrain qui est sympa aussi, c'est sur la base de loisirs de Saint-Cyr. Derrière, il y a un centre d'éducation de dressage canin, là. Et derrière, il y a un petit terrain aussi où il y a de l'initiation pour des petits enfants qui viennent faire du motocross, des colonies. Bon, là, le terrain, il est assez ludique. Il est pas mal aussi. Mais sinon, pour de la pratique sportive extrême, ici, il n'y a pas vraiment d'endroit adapté. Il y a de très belles balades à faire. Donc, voilà à peu près ce que ça donne, quoi. Ce qui est sympa, c'est que c'est on est dans la nature, on fait pas de bruit, on pollue pas, on prend du plaisir à se balader, à respirer les bonnes senteurs, à voir les animaux quand on est en forêt de Moulière, parce que comme on fait pas de bruit, ils nous entendent arriver au dernier moment. Donc souvent, moi, ça m'arrive de voir des biches, des sangliers, donc c'est assez sympa, quoi. Contrairement à d'autres activités où on fait du bruit et puis où après ils vont s'en aller. Donc ça, c'est l'ami avec qui je développe ça là-bas aussi, qui est un ancien, lui, sportif de haut niveau, puisqu'il a fait partie, pour la petite anecdote, de l'équipe de France de volleyball. Il s'appelle Loïc de Kergray, il a 124 sélections en équipe de France. Il avait 96 cm de détente verticale, pour les gens à qui ça parle. Il a joué à Tours. Et donc voilà, comme moi j'ai commencé l'année dernière, bon, j'avais qu'un parc de 6, donc il a investi aussi dans des trottinettes et on développe ça ensemble sur l'île de Ré. Et donc maintenant, bah, on en a le double pour pouvoir correspondre à faire des prestations qu'on ne pouvait pas faire obligatoirement l'année dernière. Donc voilà, après je vous invite à venir... Bah, on a une page Facebook aussi, Trotty Country, où on essaye de mettre à jour régulièrement les activités, okay. Les sorties. Voilà, je vous remercie.
Merci. Merci de cette présentation. Oui, bien sûr. Vous présentez
en même temps parce que c'est... Isabelle Marsteau. Juste, quel est le plus par rapport à faire du vélo?
On pédale pas et on a pas mal aux fesses parce qu'on n'est pas assis sur une selle. Enfin, le vélo, c'est bien, mais quand on est dans une pratique, déjà, quand on fait de la descente ou du VTT, on est rarement assis sur la selle, on en appuie sur les pédales, quoi. Donc on s'aperçoit vite que même quand on trial, la selle, on s'en sert pas tant que ça. Et en fait, c'est au niveau du franchissement parce qu'on a une autre position et ça encaisse beaucoup mieux les coups et beaucoup mieux les chocs, la trottinette, que le vélo, quoi, principalement. Et puis parce que c'est original. C'est différent, tout le monde a un vélo, donc même un vélo à assistance électrique, on imagine bien ce que ça peut donner, quoi. Alors que bon, bah, la trottinette, non, c'est un peu différent. Alors l'autonomie, quand on est sur un mode polyvalent, quand on choisit la vitesse médium qui est bridée à 30 km/h, qui est assez polyvalente, quoi, on peut faire des randonnées d'entre 2h30 et 3h, ce qui est déjà pas mal. Et après, quand on sollicite bah, la vitesse maximum et les deux roues motrices, on va perdre en durée. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu normal parce qu'après, en 1h30, on vide les batteries. Mais on est pendant 1h30 dans une pratique qui est encore plus sportive et plus extrême. Donc à la limite, même au bout d'une heure, on en a marre, on en a plein les bras. C'est pas qu'on en a marre, mais on fatigue plus vite que quand on va être en mode balade où là, on va pas être trop secoué par la configuration du terrain.
Il y a une question par ici.
Gilles Audouin, oui. Juste vous parler de vitesse, 45 km/h, normalement sur les vélos à assistance électrique, c'est limité à 25,
ouais, pourquoi 45? Sauf ceux qui sont immatriculés en préfecture et oui, qui sont,
oui.
Voilà.
Oui, mais là vous n'êtes pas immatriculé, donc
non, c'est pas de ma faute, 45. Mais parce que les élus n'ont pas encore penché sur la réglementation des trottinettes et qu'au jour d'aujourd'hui, les trottinettes sont classées dans la catégorie jeux, jouets et non pas dans la catégorie véhicules, et que le jour où... ils auront pondu une réglementation, bah peut-être qu'il faudra les faire immatriculer en carte grise, qu'on aura aussi une petite plaque derrière comme un cyclo. Voilà. Mais on a été plus vite qu'eux pour l'instant, donc peut-être qu'ils vont nous rattraper, mais on les précède de peu. Voilà. Bien. D'où l'intérêt d'encadrer l'activité pour justement pas générer trop de problèmes, d'accidents, de trucs. Et voilà.
Bien, merci. Je vais appeler donc Yvon Tufelli, vice-président de l'Office municipal du sport de Poitiers. L'Office municipal du sport, c'est aussi une institution qui existe dans de nombreuses villes, peut-être pas dans toutes, mais on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'en France, il y a quand même pas mal d'offices municipaux des sports. Donc ça peut être intéressant que vous connaissiez ce genre d'institution. Et puis peut-être vous réagirez sur ce que vous avez déjà vu et entendu.
Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis le représentant de l'Office des sports de Poitiers. Alors, c'est quoi l'Office des sports? Non? Je commence par une question. Alors, l'Office des sports de Poitiers, c'est... d'abord, c'est une association de loi 1901. Elle œuvre en faveur du développement du sport en collaboration avec la municipalité et les acteurs, c'est-à-dire et les associations sportives. Alors, en ce qui concerne Poitiers, pour répondre d'abord à monsieur, il y a en France d'abord 1200 à peu près OMS. Pour une population de 8000 habitants, enfin 8000 personnes environ, ça fait 40 000 associations voilà, en France. Hein. Alors, en ce qui concerne Poitiers, c'est une association donc, de loi 1901. Elle est là, elle est inscrite depuis 1966. Et c'est comment ? Elle est, il y a 170 membres, club et comité. Alors, c'est, qu'est-ce qu'on fait ? Elle a la vocation d'encourager toutes les initiatives tendant à développer la pratique des activités physiques et sportives. C'est une association. Alors, à contrario, on va commencer par le contre. Ce n'est pas une commission extra-municipale, ce n'est pas un service de sport, et ce n'est pas non plus un club omnisport, parce qu'on ne fait pas de compétition, si vous voulez. Hein. On ne gère aucune compétition. Alors, par contre, on facilite la concertation entre les acteurs du sport. On soutient les associations sportives, on fédère les motivations et on fait en quelque sorte une interface entre les associations et les collectivités. L'OMS se veut être au service des associations sportives et assumer son rôle d'interlocuteur entre les associations et les décideurs, et assez souvent avec la municipalité. Alors, actuellement, on a quatre missions. La première, c'est on est un appui administratif au club et ou association. Par exemple, on a le siège social de l'ordre de 25 associations de Poitiers. Quoi. Alors, on soutient tous les adhérents en logistique, en communication. On fait un prêt de matériel, de salles de réunion aussi. On a le suivi avec la mairie en ce qui concerne les demandes de subventions. On peut aider pour faire les demandes de subventions. Et pratiquement tout à l'heure, M. Peintureau a parlé de quelque chose. On a participé, par exemple, à l'élaboration de la charte. Elle n'est pas encore, opérationnelle. Que sur 12 communes, ce qu'on appelle la charte d'utilisation et d'hygiène des équipements sportifs. Voilà. Donc, on s'intéresse. Alors, la deuxième chose, c'est l'information du grand public sur les activités du club et les associations avec la publication d'un annuaire. Alors, la publication d'un annuaire, pour ceux qui en voudront tout à l'heure, ils pourront. Il y en a d'autres qui doivent le connaître. C'est l'association. Alors, il y a dedans à peu près 220 associations qui sont répertoriées avec leur adresse et tout ça. Donc, vous voyez 220 associations à Poitiers. C'est pas encore le Grand Poitiers. On publie chaque année et on a bien sûr un site internet. Alors ensuite, après l'information, c'est aussi l'animation. Alors on participe à la journée des associations. On a d'ailleurs un stand. On a participé dernièrement, enfin ça fait 2 ans maintenant, à la foire d'automne. Et là, ce qu'on fait aussi bien aux journées des associations qu'à la foire d'automne, c'est on gère les démonstrations des clubs. Hein ? Vous avez participé, voilà. Alors, on a aussi, il y a quelque chose d'important aussi. On fait ce qu'on appelle la soirée des récompenses, c'est-à-dire la soirée des récompenses, comme son nom l'indique. C'est le soir où on donne, d'ailleurs, dans les salons de l'hôtel de ville. Chaque fin d'année, on valorise les performances des sportifs amateurs et l'engagement des dirigeants, c'est-à-dire les bénévoles qui dirigent. Les bénévoles, il y en a des bénévoles. Et alors, la chose la plus importante là, de notre activité, c'est bien évidemment l'activité médicale. C'est une activité fondamentale pour ce qui concerne l'OMS. C'est un véritable service d'utilité publique. Le contrôle médical des sportifs, il y a d'ailleurs une dizaine de médecins qui concourent à ces contrôles, qui peuvent se déplacer, même y compris dans les associations. Ils ont ce qu'on appelle une valise médicale. Mais dans les bureaux, si vous voulez, de l'OMS, place Charles de Gaulle, nous avons un véritable cabinet médical avec, donc, je vous dis, une dizaine de médecins de toute spécialisation. Le dernier en date de mémoire, c'est le parachutisme. Donc, y compris SPLEO, enfin, tout ce qui concerne. Alors, ils délivrent des, ce qu'on appelle les certificats de contre-indication et donc des consultations médicales pour ce qui concerne ces. C'est très très important, c'est l'activité la plus importante. Donc, c'est, ça, l'OMS reste à la disposition de tous ceux qui veulent pratiquer. Le sport, c'est aussi, il faut y penser aussi, c'est le dévouement des associations et des nombreux bénévoles. Dans cet esprit, l'Office du sport, partenaire de la ville, mène un travail au service de tous les sportifs. Voilà pourquoi l'OMS, dans le cadre d'une dynamique générale propre à entraîner une créativité territoriale en matière d'équipements les plus divers. En accompagnant les clubs sportifs et en informant le grand public par les animations dans les manifestations, en menant une réflexion sur l'élargissement à moyen terme de l'OMS de Poitiers et du futur Grand Poitiers, pour ce qui nous concerne, en cherchant des partenariats avec les institutions concernées, il ne faut pas oublier qu'on est en relation avec le CDOS, et la faculté des sciences, et bien évidemment le cercle de Boivre, de Krebs de Boivre. Voilà. L'OMS, on espère que l'OMS va réussir cette mission d'intérêt général, service public. Voilà, je pense que pour revenir sur les missions, je pense que l'OMS a vraiment un rôle à jouer pour concentrer un petit peu tous ces acteurs, hein, et pour essayer d'être une interface le plus utile possible. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Tufelli, de cette présentation et de, dans vos territoires respectifs, interroger l'OMS lorsqu'il existe. Je pense que ça peut être intéressant.
Alors, je veux rajouter une chose.
Que
nous avons ici, j'ai apporté aussi pour ceux qui le veulent, ce qu'on appelle un évaluateur de la condition physique, c'est-à-dire c'est édité par le contrôle médical sportif. Vous avez donc toute l'information concernant pour effectivement votre évaluation physique dedans. Et plus ça, je suis à votre disposition pour distribuer le.
Vous pourrez en laisser à l'accueil, d'ailleurs. Voilà. J'en laisserai. Comme ça, chacun pourra se servir. Est-ce qu'il y a des questions sur l'aspect de l'OMS? Oui, allez-y, Monsieur Peintureau.
Tout à l'heure, donc j'expliquais que le sport sur notre nouveau territoire, aussi bien l'activité que les équipements, sont donc à l'échelle intercommunale. Est-ce que l'OMS envisage de transformer en office intercommunal du sport? Et si oui, où en êtes-vous?
Au GP40, vous voulez dire?
Alors, pour l'instant, c'est en étude, mais on attend surtout de savoir si la municipalité de Poitiers a. Nous, on voudrait bien. Moi, je pense qu'il faut le faire, en ce qui me concerne. Je pense qu'il faut le faire. Alors maintenant, ça nécessite des moyens. Mais je pense qu'il faut évoluer. Maintenant, on en arrive à Grand Poitiers. C'est quand même très important. Vous avez montré la carte. Oui. Mais il faut en discuter, notamment avec le service des sports de Poitiers. Hein. C'est ce dont on n'a pas commencé, mais disons qu'on a on a essayé de sonder. Mais je suis fermement intéressé. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Ça va nécessiter, comme je vous disais, d'autres moyens, mais. C'est ça, c'est l'évolution. Il faut essayer d'atteindre. Moi, je vois qu'il suis issu de. Vous parlez de ça, qu'il suis issu d'une ville qui est hors agglomération de Poitiers. J'espère un jour qu'on pourra aussi, même ceux qui ne sont pas dans le Grand Poitiers, essayer de les drainer. D'ailleurs, entre parenthèses, je pense à une chose, on est en train aussi d'essayer de voir comment va évoluer la relation des deux autres OMS avec le nôtre. Hein, il y a Migny-Auzance. Et donc, là aussi, on a commencé, mais on ne sait pas encore, c'est qu'à le dire, on ne veut pas non plus comment froisser les, les indépendances. Voilà.
Une question pour vous deux, peut-être parce qu'on est dans la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que la compétence sportive a une importance par rapport à cette région ? Lors des vœux, le président Rousset est venu au Crêpes de Boif. Je pense que la région fait du Crêpes un outil important. Enfin, comment vous voyez ça ?
La région Nouvelle-Aquitaine, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est effectivement une évolution avec la loi NOTRe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi NOTRe spécialise les compétences des communes, des départements et des régions et des EPCI. Et il y a une particularité dans la loi NOTRe, c'est que le sport, le tourisme et la culture ne sont pas frappés par la spécialisation, mais sont toujours dans le cadre de la possibilité de choisir ces compétences-là par les différentes collectivités et de travailler ensemble. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, le sport est une compétence qui continue à être mise en œuvre en partenariat avec les autres partenaires. Je donne juste un exemple, c'est la région, je pense qu'il participera aussi d'une façon ou d'une autre, mais le conseil départemental a lancé effectivement l'idée de construire une grande aréna. La grande aréna va être mise en place par le conseil départemental comme maître, le maître d'ouvrage, mais il est clair que ça sera avec Grand Poitiers et probablement avec la région. Pour ce qui concerne le Crêpes, Grand Poitiers travaille avec le Crêpes, on se voit régulièrement. Et puis là, on est en train de réfléchir aussi par rapport à l'évolution de leur piscine, travailler ensemble. Ils ont bénéficié de nos équipements aussi il y a très peu de temps dans le cadre d'un séminaire qu'ils ont organisé avec nous. Il y a effectivement des équipements sportifs du Crêpes qui sont loués. On loue des créneaux pour les associations sportives, notamment de Vouneuil-Soubiard. Et donc, ce partenariat, il existe. On travaille ensemble. La région effectivement investit je crois 11 millions sur le Crêpes, et notamment avec un objectif de développer les activités du Crêpes avec des capacités plus importantes au niveau de l'hébergement. Tout ça, ça participe pleinement à l'attractivité du territoire. Et il faut savoir que le Crêpes de Poitiers est situé sur la commune de Vouneuil-Soubiard et donc est pleinement intégré au territoire de Grand Poitiers. Donc pour nous, c'est effectivement un partenaire important sur le territoire sur lequel on évolue.
Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions ? Sinon, j'appelle donc M. Poulain qui va nous présenter quelque chose en émergence, si j'ai bien compris. Mais il va nous présenter. Voilà.
Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Donc tout d'abord, Oui, il n'y a pas un mètre, il est là-haut, pas de problème. Mais on va rester là-dessus pour l'instant. Je me présente un petit peu. J'ai 45 ans de bénévolat sportif derrière moi. J'ai commencé assez jeune quand même. J'ai pratiqué pas mal de sports, plusieurs sports. Et j'ai été dirigeant sportif. Je suis toujours dirigeant sportif. J'ai découvert le golf. Donc, ce n'est pas du tout un sport nouveau. Hein. C'est un sport ancien, fin du 19e siècle. Donc, ce n'est pas a priori innovant. Sauf que, en tant que nouvel adepte de ce sport, qui est un vrai sport, il n'y a qu'à faire 18 trous pour s'apercevoir que c'est vraiment un sport. Et c'est vraiment un sport superbe, effectivement. Mais qui actuellement est soumis à beaucoup de freins, des freins matériels, économiques, financiers, qui empêchent une grande partie de nos concitoyens de le pratiquer, ce qui est fort dommage, parce que pratiquer le golf, c'est vraiment très bien. Donc je fais partie de ces nouveaux adeptes qui essaient de développer une autre conception du golf, par rapport au golf historique récent. Pour fixer les idées, quand on dit que c'est pas à la portée de tout le monde, je viens d'adhérer pour la première fois dans un golf, le golf de Mialou, il y a pas de, c'est public en plus, donc il n'y a pas de problème. Ça me coûte 1 200 € pour l'année. Donc quand on a dit ça, on voit bien qu'il y a quand même comme un frein. Et il faut vous dire que cette somme n'est loin d'être exorbitante par rapport aux autres structures golfiques existantes. Et elle ne baissera jamais parce que les coûts de fonctionnement sont tellement élevés qu'il n'est pas possible de faire autrement. Donc ce projet du golf des Brandes, il faut toujours, enfin, tout de suite penser que ça n'a rien à voir avec le golf de Mialou, le golf de la Roche-Posay, le Saint-Cyr. Non, non, non. Ce n'est pas du tout non plus un concurrent. Parce qu'on commence à avoir des réactions, parce que la presse en fait écho, tout ça. Donc, il y a des gens qui ont peur, on se demande de quoi. J'espère qu'à terme, nous serons des partenaires de ces structures existantes pour les aider à vivre encore mieux. Mais notre idée, c'est effectivement que des gens qui ont entendu parler du golf, mais qui disent c'est pas pour nous, eh ben, grâce à notre initiative, puissent franchir le cap. Voilà. Donc partant de cette idée, qui n'est qu'une idée, je ne suis porteur d'aucun projet personnellement, c'est une idée, que j'ai soumis aux élus de ma région d'origine, j'en sais, et qui a trouvé un écho favorable auprès du maire de Château-Garnier, une commune qui est située entre Jansey et Civray, à 40 km de Poitiers, en pleine zone rurale. Il se trouve que cette commune a une grande chance, c'est qu'elle possède, par dotation, à peu près 150 hectares qui l'ont été donnés. Je cherche mon diaporama, mais pour le lancer. Ah si, il est lancé, oui. À partir de, pardon, je vois pas. À partir de, du début. C'est normal. Voilà, il va se lancer. Il y a une flèche pour avancer. Ouais, je l'ai. Je l'ai. Voilà. Donc, cette commune dispose de 150 hectares gratuits du secteur des Brandes. Et on pourrait avoir une partie de cet espace mise à disposition. Voilà donc nos objectifs. Innovant parce que, vous allez le voir, vous voyez d'ailleurs sur les photos, on a la chance d'avoir un étang à disposition qui va nous permettre de faire un practice sur l'eau. Il n'y en a que 24 en France. Et ça, c'est une attraction qui va être appréciée des golfeurs actuels et des futurs golfeurs. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, accessible au plus grand nombre. Bien entendu, les golfeurs confirmés ne sont pas exclus, mais les scolaires du secteur, les collégiens, les écoliers. Respectueux de l'environnement et de la topographie des lieux, ça veut dire qu'il n'y aura pas de bulldozer quand le projet sera, si ça fait un jour, on ne créera pas de but artificiel. Enfin bref, on s'adaptera au terrain, bien entendu. Et, chose importante, parce que c'est que le golf est un gros consommateur d'eau, bien entendu. Donc il y a déjà des réserves, une réserve d'eau avec un grand, vous allez le voir dans le plan tout à l'heure, un grand étang, donc on pourra maîtriser tout ça. Quand je vous dis respecter l'environnement, je vous parle du golf de Mialou. Vous ne savez peut-être pas que les premiers golfs ont été en Écosse à la fin du 19e siècle. Et en fait, on va en quelque sorte revenir aux sources. Parce qu'en Écosse, il y a des superbes golfs, Saint Andrews, le plus beau golf du monde. Mais il y a une multitude de golfs qui n'ont aucun entretien. On appelle les pitch and putt, ça veut dire que vous êtes au départ et vous arrivez directement sur le green, et puis entre les deux, ben, y a presque aucun entretien. Et nous, ce qu'on va faire à Château-Garnier, c'est plutôt ça, un golf rustique qui demandera un minimum d'entretien, bien entendu, qui n'aura pas sans doute les dimensions des grands golfs, mais qui permettra de mettre le pied à l'étrier, on espère, de beaucoup de personnes, pour un coût modique. Voilà, vous avez les phases, bien entendu. Alors, vous dites un projet. Première phase, printemps 2017, donc c'est en ce moment. Hein. Aménagement d'un practice, aménagement d'un parcours, c'est fait. Donc l'idée, ça fait 6 mois que je l'ai lancé. Et donc 6 mois après, pour le week-end de la Pentecôte, on va faire une journée porte ouverte, 2 jours, pour inviter les gens directement sur le site pour le faire connaître. puis pour voir aussi si, comment dire, le jeu vaut la chandelle et s'il y a des amateurs. Parce que sinon, il ne sera pas la peine d'aller plus loin. Mais déjà, rien qu'avec ça, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Voilà. En fait, on va faire une étude de faisabilité en live. Quoi. On va voir si les gens du coin sont vraiment intéressés. Voilà, les autres phases. Donc, allez-y.
Eric Schmitt, Trotty Country. Moi, je vous posais une question pratique concernant le putting là, dans l'eau. Sur le plan d'eau, vous allez mettre des cibles, vous allez mettre. Parce qu'en fait, quand on fait du practice, ce qui est bien, c'est de s'étalonner. Des fois, il y a des distances, donc on aime bien.
Oh, bah oui, monsieur. Bah. Mais moi, je m'adapte. Hein. Je connaissais pas, enfin, je connais ça, mais. Oui, bien sûr, c'est l'intérêt d'un practice. Et on vous avait ici le. Comment dire, le plan. C'est une partie des brandes de Château-Garnier. Là, vous avez, pour ceux qui connaissent, le plan d'eau, le plan de pêche, ici, qui fait plus de 3 hectares. Hein. Et donc, nous, on est là, voilà notre practice sur l'eau, un étang qui fait à peu près 1 hectare. Et alors, ce qui est formidable, c'est là, vous allez le voir dans une autre diapo, encore plus clair, il y a un îlot qu'on est en train d'aménager et qui sera notre cible. Et il y aura ici des bouées à 50 mètres, à, enfin bref. Mais là, on a une cible comme si c'était un green officiel, c'est absolument... Mais le corollaire, c'est que de là à là, il n'y a que 150 mètres. Donc on a déjà eu des réactions de grands golfeurs, dont je ne fais pas partie, mais qui nous disent 150 mètres, c'est trop court. Donc on limitera, pour ceux qui jouent au golf, on limitera au fer 7. Les bois seront interdits, parce que c'est pas du tout le but. Notre but, c'est vraiment de découvrir et d'initier les gens au golf. Hein, voilà. Continue, qu'est-ce qu'il y a après? C'est le diaporama que j'ai présenté à l'Assemblée Générale Constitutive. Château-Garnier, qui est en plein désert, effectivement, du Sud-Yenne, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a quand même, on ne met pas ça, comment dire, ex nihilo. Il y a déjà, vous voyez, un terrain de tennis, un city-stade, avec piste d'athlétisme, vous voyez à côté, là, hein, à côté. Il y a un mini-golf, et il y a donc le plan d'eau, ça c'est le local d'accueil du plan d'eau actuel pour les pêcheurs, vous voyez qu'on peut s'installer sans problème. Donc voilà la vue de notre practice sur l'eau, l'îlot, il est par là, vous voyez. On va le revoir, mais j'ai une dernière vue sur le... Voilà, ça c'est la digue qui sépare le plan d'eau de pêche de notre étang. Et c'est là-dessus qu'on va faire les départs du practice. Les box du practice, c'est absolument extraordinaire. Enfin, pour ceux qui aiment, bien entendu. Donc voilà une autre vue de l'îlot.
Et vous fournissez des casques pour les pêcheurs?
Ah non, ils sont de l'autre côté. Hein, ouais, ils sont de l'autre côté. Donc là, c'est notre plan de bataille qui fait quoi? Donc la commune de Château-Garnier, bien entendu. L'association qui gère actuellement le plan d'eau, avec laquelle on entretient les meilleures relations. Donc nous, ce qu'on fera, bien entendu, aménagement, tout ça, c'est fait. Notre problème, ça va être la récupération des balles sur l'eau, parce que les balles flottent, bien entendu, hein. Elles vont pas au fond. Donc nous, on a déjà un pédalo, mais ça va être dur le pédalo, parce qu'il faut pédaler. Donc on est. Si vous connaissez, j'ai déjà dit en mangeant, si vous connaissez des gens qui veulent nous louer ou nous vendre une barque à fond plat, ça sera parfait pour nous. Parce qu'on préfère ramer que pédaler, parce que c'est... Pardon ? Ben, j'ai un collègue qui a un kayak, mais un kayak, les balles, il faut les mettre quelque part, quand même. Des petits filets de chaque côté, oui, voilà. Et donc, on espère que la collectivité nouvelle, qui s'appelle la communauté de communes du Civrésien en Poitou, prendra le relais, ce qui n'est pas sûr, si vous avez lu la presse. Bon, bref. Mais on peut mener à bien avec la commune seule, vu le projet minimaliste que nous allons prendre, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ce sont des exemples de golf. Ça, c'est le dernier golf qui s'est créé à Chartres, qui ressemble un peu au nôtre. Voilà, mais je voudrais vous montrer une dernière... Alors là, il faut que je revienne. Quitter, enfin... Cliquer sur quitter. Voilà, et puis prendre ma diapo, la dernière, voilà. Voilà, c'est ça, merci. Merci beaucoup. Alors, on a capturé sur Google Earth... Pardon. Le site, vous allez mieux voir, parce que là c'est le vrai site. Oh, c'est trop. vais le faire déplacer. Donc, je vais vous montrer tout d'abord, voilà. On le voit mieux là. Alors il y a les lignes, moi je peux avec la souris, les lignes là, donc là voilà la digue, en plus gros, vous voyez. Et donc là c'est tous les 10 mètres. Les cercles concentriques sont 10 mètres, tous les 10 mètres, sauf là c'est, ça fait 20 mètres ici celui-là. Donc vous voyez l'îlot au droit ici, notre practice commencera ici, il est à 83 mètres ici le plus près et à 100 mètres. Il fait à peu près 15 mètres de long sur 8 mètres de large. Ça fait une cible absolument extraordinaire. Et là, par rapport à la photo de Google, on a passé des heures et des heures. On a complètement nettoyé l'îlot, parce que pour récupérer les balles, ça va être plus facile. Voilà. Et notre zone ira jusque-là, notre zone de practice. Pour les gens qui voudront taper plus fort, ils pourront tirer en biais sur 120, 130 mètres. Alors, je dis pour les golfeurs, quand je dis 100 mètres et 130 mètres, c'est 20 mètres, 130 mètres de vol de la balle. Sur un practice normal, la balle, elle roule pendant plusieurs dizaines de mètres. Donc là, déjà, pour balancer la balle à 120 mètres, il faut quand même taper pas mal. Voilà. Et puis ici, donc je vous parlais de l'aménagement pour notre journée porte ouverte de la Pentecôte. Allons, enlève-toi. Voilà. Pas vrai, ça. Faut jamais s'énerver en informatique, mais je cherche l'ascenseur, mais je ne le vois pas. Énerve. Voilà, oui, mais c'est que j'ai eu un bandeau avant. Voilà. Donc ça, c'est... voilà, ça suffit comme ça, voilà. Donc ici, vous avez le plan d'eau de pêche, ici. C'est complètement l'extrémité. Il y a très peu de pêcheurs ici. Cette zone fait à peu près 20 mètres. Donc ça, c'est notre plan de ce qu'on appelle le parcours découverte. Quand il y a un D, c'est le départ, et le T, c'est le trou. Donc, je parlais de golf rustique, style Écosse. Donc là, on va tondre quand même, pour qu'on puisse voir les balles. Et on aura donc nos 9 trous à partir du week-end de la Pentecôte.
Mais
voilà.
C'est que départ 3, la taille.
Ah oui, alors, ouais. Ce sont ce qu'on appelle des pitch and putt. Un pitch and putt, c'est des trous entre 30 et 90 mètres, qui se jouent avec qu'un seul fer.
Ouais.
Oui, enfin là, il n'y aura pas de putt parce qu'il n'y aura pas de green. Hein. C'est des
green.
Ah ben non. C'est des, on commence juste là. Hein. Mais dans les clubs, on appelle ça les greens d'hiver. Donc on ne termine pas le parcours sur le green, mais sur le fairway, avec un trou qui fait 20 cm de diamètre. Donc ça existe sur les... À Mialou, les greens d'hiver, c'est ça, c'est sur le fairway. Mais n'oubliez pas, notre but, c'est une découverte et une approche du golf. Hein. C'est pas... Et un jour, on aura peut-être un vrai golf 9 trous. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Poulain, de cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on enchaîne. Oui, peut-être, non? J'ai cru. Pardon, allez-y.
Vous avez le micro. Oui, c'est...
Ça marche pas. Si.
Oui, cette expérience est très intéressante. Et effectivement, sur le golf, comme sur d'autres pratiques, il faut des projets complémentaires. Il existe les golfs que vous avez cités, mais il existe aussi le golf de Chalon, qui est un golf de la communauté de l'agglomération de Poitiers, qui fonctionne un peu sur le principe que vous avez expliqué, c'est-à-dire qu'effectivement, les prix d'adhésion n'ont rien à voir à ce que vous avez annoncé, par exemple, à Mialou. C'est un golf pédagogique qui sert effectivement beaucoup aux scolaires, aux universitaires, mais l'association qui maintenant travaille sur ce golf est en train de développer fortement l'école de golf, et il y a de plus en plus de jeunes qui pratiquent cette activité, et je pense que c'est intéressant justement pour développer le golf, pour le démocratiser et permettre que cette activité soit accessible à tous.
Merci de cette précision.
Oui, il faut une licence. Oui. Mais là, je parle, c'est un prix très attractif, licence et cotisation à l'association comprise. Je ne me souviens plus comment c'est, mais c'est...
Vous payez juste le Green Fee, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'être licencié. À Saint-Cyr ou à Mignalou, vous allez, vous pouvez faire soit votre 9 pouces, soit votre 18 pouces. Si vous savez jouer, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre licence, de jouer en club et tout. Et moi, une fois, je sais pas ce que j'ai en tant que joue au golf aussi. J'ai voulu aller jouer à Chalon. On m'a dit, vous avez votre licence.
Maintenant, de plus en plus de clubs réclament licence pour une histoire d'assurance. Hein. C'est, voilà. Mais le green fee au Poitou, c'est 40-45 euros. Hein. Oui. Les prix à Chalon, c'est 80 euros pour les enfants, ouais, et avec une heure et demie de cours
à l'année.
C'est bien. Et 270 pour un adulte.
Bien, on enchaîne donc avec Richard Dupuis sur le sport bougé sur ordonnance. Et peut-être juste une petite provocation, mais c'est juste pour lancer la discussion. Par exemple, à la question posée à Churchill, pourquoi il a vécu si longtemps, et la réponse de Churchill, enfin c'est une anecdote, je ne sais pas si elle est véritable, c'est no sport. Voilà.
Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, l'objet de mon intervention, c'est de vous présenter un dispositif expérimental. Un dispositif expérimental de prescription médicale d'activité physique qui s'appelle PrescriMove, bouger sur ordonnance. Donc je vais vous présenter rapidement le contexte et ensuite, donc moi je suis coordinateur de ce dispositif sur Grand Poitiers, donc je vous donnerai les chiffres de l'expérimentation au 15 mai 2017, les chiffres d'activité. Donc ce dispositif, il est mis en place sur trois territoires, que sont donc Grand Poitiers, Saintes et Grand Cognac. Il faut savoir que la prescription médicale d'activité physique est régie par la nouvelle loi de santé qui dit que dans son article donc 144, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique à des personnes donc adaptées à la pathologie, aux capacités physiques et aux risques médicaux du patient. Donc pour vous présenter un peu plus précisément la prescription médicale d'activité physique et PrescriMove, on va partir du parcours du bénéficiaire par une petite vidéo. Donc une courte vidéo de présentation. S'il y a du son.
Les personnes pouvant entrer dans le dispositif doivent présenter un critère santé et un critère lié à leur profil d'activité physique. Madame P a rendez-vous chez son médecin traitant. Le docteur C constate que sa patiente diabétique est également sédentaire et très isolée socialement. Il lui propose un programme d'activité physique adapté. Docteur C rédige et remet un certificat médical et une prescription à Madame P. Le coordonnateur réalise un entretien centré sur l'activité physique. Madame P estime son niveau d'activité physique actuel, celui qu'elle souhaite atteindre et ses comportements sédentaires. Elle réalise des tests de capacité fonctionnelle pour évaluer sa capacité aérobie, sa force et son équilibre. Madame P exprime ses freins à l'activité physique, ses objectifs et ses motivations. Un programme d'activité physique adapté est proposé à Madame P au sein d'une structure PrescriMove. Le coordonnateur remet son carnet de suivi à Madame P et il lui transmettra la compte-rendu de l'entretien ainsi qu'à son médecin traitant. Madame P bénéficie de 2 séances d'activité physique adaptées par semaine au sein de groupes de maximum 8 personnes. Les séances sont encadrées par un enseignant en activité physique adaptée. Il propose des séances construites à partir de divers sports. Leurs intensités, fréquences, durées, règles sont adaptées aux besoins du groupe. Cette intervention a pour but de maintenir ou améliorer les différents systèmes pour parvenir aux objectifs fixés par le bénéficiaire. Se sentir mieux moralement et physiquement, perdre du poids, apprendre à respirer, rompre avec l'isolement, être moins essoufflé, être plus actif. Après quelques séances, Madame P revoit le coordonnateur pour faire un point sur le programme et réaliser des changements si besoin. Au terme du programme, un nouveau bilan est réalisé. Les bénéfices perçus, les freins persistants, le ressenti du programme. L'entretien se finit sur la perception et les objectifs de poursuite de l'activité physique, en association, en autonomie, en salle. 3 mois et 6 mois après la sortie du programme, le coordonnateur appelle Madame P pour faire un point sur sa poursuite de l'activité physique.
Donc comme vous l'aurez compris un petit peu sur cette vidéo,
Les finalités de Prescrit Move, donc, ça va être d'accompagner des personnes vers un mode de vie actif, donc des personnes qui sont très éloignées de cette pratique d'activité physique et qui en plus ont des problématiques liées à leur santé. Donc l'objectif, ça va être vraiment d'augmenter leur niveau d'activité physique dans les activités de la vie quotidienne et aussi surtout de gommer leur comportement sédentaire, donc le temps qu'ils passent assis. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, je pense qu'on cumule pas mal de temps sédentaire. Ce qu'on va proposer aussi aux médecins, donc qui a une nouvelle possibilité de prescription, donc qui maintenant est légiférée, donc de prescrire de l'activité physique, ça va être de gagner du temps et que ce soit rapide pour lui. C'est-à-dire que moi, avec une personne, avant qu'elle intègre un programme d'activité physique, je passe 1h15, on va dire, de présentiel pour explorer un petit peu le niveau d'activité de la personne, faire une évaluation de la condition physique et ainsi de suite. C'est concrètement, très clairement, c'est du temps que le médecin n'a pas pour orienter son patient et accompagner son patient dans une démarche active. Donc nous, ce qu'on va lui proposer au médecin, voilà, c'est de faire un bilan un peu sur les besoins de la personne, les freins, les limites et ce qui les empêche les personnes de pratiquer de l'activité. Donc ce qu'on dit aux bénéficiaires du dispositif, et ce qu'on insiste vraiment là-dessus pour ne pas enfermer les gens dans quelque chose de trop accompagnant, justement, c'est qu'il faut que l'accompagnement qu'on leur propose ce soit temporaire. Il faut assez rapidement qu'ils puissent aller pratiquer soit en autonomie, soit encadrés dans des clubs ou dans des centres privés, pourquoi pas. Et il faut vraiment qu'ils perçoivent le programme comme une étape ou comme une passerelle vers un mode de vie actif. Donc ça, c'est nous, en tout cas, l'ambition du programme. Et c'est pour ça qu'il y a une durée maximale de 6 mois. Donc là, je vais vous faire un point sur les chiffres. Donc les premières prescriptions sur Grand Poitiers ont été faites en février 2016. À ce jour, il y a eu 102 prescriptions qui ont été faites. Donc j'ai vu 102 personnes en un peu plus d'un an, en sachant que la vitesse de prescription, enfin le rythme de prescription de la part des médecins est en train d'augmenter, puisque j'ai vu 50 personnes sur l'année 2016 et j'ai déjà vu 52 personnes sur 2017. Donc un petit point sur les prescripteurs. Donc 44 prescripteurs au total sur les 160, enfin on a répertorié sur Poitiers 165 médecins généralistes sur Grand Poitiers GP13, pas encore GP40. Donc il y a 24 médecins qui sont vraiment basés sur Poitiers, qui ont prescrit, 10 médecins sur les autres communes de Grand Poitiers, et on n'a pas fermé la porte quand même à des médecins qui étaient hors Grand Poitiers, donc il y a une dizaine de médecins qui ont fait des prescriptions alors qu'ils ne sont pas dans Grand Poitiers. Parmi ces médecins, donc 23 médecins n'ont prescrit qu'une seule fois, pour l'instant, on espère. 5 médecins ont prescrit plus de 5 fois, et le nombre moyen de prescription pour les médecins, c'est 2,4. Parmi les médecins, donc on a ciblé à la fois des médecins généralistes au départ, et puis on s'est rendu compte que les spécialistes aussi avaient bien sûr leur mot à dire. Et sur Poitiers, les institutions type CHU, les centres de santé, les maisons de santé, le centre de santé universitaire aussi, enfin le service de santé universitaire, et avec un lien également qui a été établi avec le CCAS de Poitiers sur l'aspect mairie. Donc ces personnes, elles vont pratiquer dans des créneaux qui sont spécifiques. Donc là, je vais vous présenter un peu l'offre de pratique. Nous avons sur Grand Poitiers 9 structures qui répondent donc au cahier des charges un peu spécifique pour la prise en charge. Donc le cahier des charges est assez simple. On a demandé aux structures d'être en capacité de mettre en place des créneaux qui sont spécifiques, donc qu'avec des personnes qui auront une prescription. Que cette séance, ce programme, soit encadré par quelqu'un qui ait des compétences en activité physique adaptée, un titulaire d'une licence STAPS, activité physique adaptée et santé, et que dans le créneau, il y ait au maximum 8 personnes. Donc là, il y a 9 structures qui ont répondu favorablement à l'appel. Et donc, il y a 6 associations sportives, donc des clubs ou des comités, une association non sportive et 2 structures privées. Ce qui implique derrière donc, la mise en place de 18 créneaux hebdomadaires sur Grand Poitiers d'activité physique adaptée, durant lesquels les personnes vont pouvoir avoir des activités sur le renforcement musculaire, la sollicitation d'aptitudes cardio-respiratoires, coordination, équilibre, en médiation avec de la marche, de la gym douce, du taïso, de la natation, des jeux de raquettes, des jeux de ballon ou toute autre activité que l'encadrant aura trouvé nécessaire pour mettre les gens en activité. Donc là maintenant, je vais vous faire un point plus précisément sur les bénéficiaires, donc les 102 personnes que j'ai pu rencontrer. au 15 mai 2017. Donc il y a 62 personnes qui sont encore en activité dans les créneaux, dans les 9 structures. J'ai comptabilisé 10 personnes qui sont en attente, donc parce que c'est pas forcément le bon moment, ou alors pour certaines activités il va y avoir une grosse pause estivale, donc de mi-juin à mi-septembre. Donc les personnes qui arrivent là, je vais pas les orienter sur une activité qui va arrêter pendant 3 mois, ça aurait aucun sens. Et aussi il y a des personnes qui sont en attente de ou en arrêt suite à leur état de santé, qui peuvent être hospitalisées. 13 personnes ont arrêté ou alors n'ont jamais commencé, des personnes que j'ai rencontrées mais qui n'ont pas suivi la prescription, comme une personne qui va chez le pharmacien, qui prend le médicament, enfin qui achète le médicament mais qui prend pas le médicament. Ça peut arriver, ça peut arriver à tout le monde. Et 17 personnes qui ont fini le programme. Tout à l'heure je vous ferai un point plus précis sur ces 17 personnes et les premiers chiffres. La répartition hommes-femmes, donc 80 femmes ont suivi la prescription du médecin, 22 hommes. Donc est-ce que les femmes suivent plus les recommandations du médecin par rapport aux hommes? Parce qu'il y a sûrement des prescriptions dans la nature et des gens que j'ai pas vus, ça je sais pas. 16% des personnes habitent en dehors de Grand Poitiers et l'âge moyen des personnes est de 50 ans. Et en amplitude, ça va de 18 ans à 85 ans. Au niveau des profils pathologiques, 50% des personnes, donc des 102 personnes, sont déclarées être en affection de longue durée. Parmi les pathologies les plus représentées, le diabète de type 2, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronarienne et l'insuffisance respiratoire. Schématiquement, voilà, c'est vraiment les profils que je reçois le plus souvent. 48% des personnes déclarent avoir au moins 2 pathologies. Parmi celles que j'ai citées notamment, avec aussi l'hypertension artérielle qui est assez présente. L'indice de masse corporelle moyen des personnes, c'est 36,5 kg par mètre carré. Donc pour donner un ordre d'idée, le seuil d'obésité se situe au-dessus de 30 kg par mètre carré. Donc au-dessus de 30, on est entre 30 et 35, on est considéré comme... en situation d'obésité modérée, au-dessus de 35 en situation d'obésité morbide et au-dessus de 40 en situation d'obésité obésité sévère et obésité morbide au-dessus de 40. Donc il y a 76% qui sont au-dessus du seuil de 30, ce qui est quand même assez impressionnant.
C'est lié souvent à la mauvaise nutrition ou le manque de sport principalement? Il y a les deux, non?
Alors il y a beaucoup de facteurs qui sont entremêlés, hein. Donc effectivement il y a la nutrition, il y a de l'isolement social parmi les populations qu'on rencontre, il y a franchement des facteurs d'isolement social qui sont vraiment très, très prégnants, et puis après il y a le manque d'activité et clairement les comportements sédentaires aussi, l'inactivité et la sédentarité qui sont couplés, voilà. Et après aussi une quinzaine de pourcents des personnes, il y a aussi des troubles psychiques qui sont présents et qui, avec la prise médicamenteuse, peuvent aussi avoir des prises de poids importantes ou des épreuves de vie qui font qu'il y a une prise de poids importante sur une durée très courte, par exemple. Donc les traitements médicamenteux n'arrangent pas forcément les situations au regard de l'obésité en tout cas. Après, nous, on explore un petit peu aussi l'activité physique des personnes et leur niveau d'activité physique. C'est aussi ce qu'on propose forcément au médecin et ce que le médecin n'a pas le temps de faire. Donc, on échange un petit peu avec les personnes sur leur niveau d'activité physique perçu avant le programme. Donc, ils estiment qu'ils sont en moyenne autour de 3,3 sur 10. Leur comportement sédentaire, ça, c'est des choses que je demande. Donc, ils estiment passer 6h20 par jour assis ou en situation allongée. En temps d'éveil, hein, j'entends. Le score Ritchie-Gagnon, donc pour faire simple, c'est un questionnaire de 9 questions qui détermine votre profil d'activité physique. Au-dessous de 18, on est considéré comme inactif physiquement. Donc là, le score moyen est de 12,4. Donc ce sont des questions qui sont liées au comportement sédentaire, à la pratique d'une activité physique de loisir ou non, et à ce que vous faites dans vos activités de la vie quotidienne. Donc là, on est clairement chez des profils inactifs. Et pour finir, le niveau d'activité physique souhaité des personnes se situe à 7,3. Donc c'est-à-dire que son des personnes qui ont conscience que ou qui ont envie de faire plus d'activités physiques et ils ont conscience que ce serait bien pour leur santé, mais il y a des freins. Et donc les freins exposés, donc ce qui explique la différence entre le niveau souhaité et le niveau perçu, donc ça c'est les freins, et souvent les freins qui sont relatés sont liés à l'état de santé, aux douleurs et à la fatigue, le manque d'accompagnement, donc c'est-à-dire que ils ont besoin à un moment donné d'une structure qui puisse les aider à aller vers de l'activité physique, donc c'est ce qu'on peut leur proposer. Le manque de motivation, donc ça, les gens sont relativement transparents par rapport à ça, hein, c'est le manque de motivation les empêche d'aller vers plus d'activités physiques, et bien sûr le manque de temps et d'organisation. Ça, on trouve souvent des excuses, tout comme tout un chacun, hein, pour pas aller faire un peu d'activité physique, et ça rentre clairement dans les freins les plus fréquemment exposés. Alors là, je vais vous faire un point sur les 17 personnes qui ont fini le programme. Sur ces 17 personnes, donc sur les 6 mois d'activité physique maximum, ils ont réalisé en moyenne 31 séances par programme. À l'issue du programme, le niveau d'activité physique perçu était remonté à 6,5, donc ce qui n'est rien d'étonnant. Ils faisaient 2 heures d'activité par semaine encadrée, plus ce qu'on pouvait leur demander ou ce qu'ils ont pu faire à côté. Les temps de sédentarité donc sont passés à 5h20 par jour, donc une heure de moins par rapport au seuil initial. Et au début du programme, on évalue aussi par le biais d'un test de marche de 6 minutes la plus grande distance qu'ils peuvent réaliser pendant 6 minutes. Et donc là, il y a une amélioration sur les 17 personnes concernées de 38 mètres. Donc il y a certaines personnes qui ont augmenté très fortement et d'autres personnes une ou deux personnes qui ont stagné, pour lesquelles le programme n'a pas eu forcément d'impact par rapport à ça. On a évalué aussi la qualité de vie par le biais d'un questionnaire. Donc là, il y a eu une augmentation de 12% de la qualité de vie générale. Après, sur ce test-là, il y a plusieurs items. Donc il y a la qualité de vie physique, la qualité de vie psychique. Donc ça, ce sont des données qui augmentent. Et ensuite, la qualité de vie liée à l'environnement et aux relations sociales, ça, par contre, ça augmente pas du tout. Alors que c'est assez surprenant, puisque toutes les pratiques qu'on fait sont en groupe. Et les personnes viennent aussi nous voir en nous disant qu'ils souhaitent pratiquer en groupe et qu'ils veulent un peu casser l'isolement, mais l'aspect relation sociale n'augmente pas. Donc là, il faudrait creuser un petit peu plus pourquoi. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Parmi les 17 personnes, 11 se sont inscrits à une activité par la suite. Donc ça, c'est quand même très positif, puisque c'est la finalité du dispositif. Certaines personnes sont en attente justement de septembre aussi pour voir s'ils pourront continuer. Et 2 personnes déclarent qu'ils vont continuer en autonomie, mais sans forcément utiliser s'inscrire à une activité. Donc dans les freins persistants quand même, parce que les gens ont toujours des freins quand même, il y a les douleurs. Donc c'est-à-dire que l'état de santé s'est peut-être amélioré, mais les douleurs sont quand même persistantes. L'activité physique n'enlève pas les douleurs, et c'est pas un miracle. Il y a tout ce qui est lié aussi au financement. Donc comment la personne va financer la poursuite de l'activité. L'organisation et le manque de temps est toujours présent. Et ce que relatent les personnes aussi, c'est qu'ils ont toujours besoin d'être accompagnés, donc entre un programme d'activité physique adaptée dans le cadre de PrescriMove et une structure classique. Donc il manque encore peut-être quelque chose entre les deux pour accompagner les personnes vers la mise en activité plus durable. Donc pour finir, donc voilà un petit peu le retour d'expérience qu'on peut faire, nous, par rapport à PrescriMove et plus généralement par rapport à la prescription d'activité physique. La nécessaire mobilisation et formation des prescripteurs, c'est eux la porte d'entrée. S'ils ne sont pas sensibilisés à la prescription et à cette nouvelle pratique qui leur est offerte, ça ne sera pas possible. La connaissance des offres de pratique, on va dire à visée santé, donc toutes les offres qui sont liées au sport santé, il y a une multitude d'activités aussi bien dans le mouvement sportif, dans les centres socioculturels, dans le secteur privé. Voilà, maintenant, il faut que ça soit connu. Et puis aussi, la structuration de parcours d'activité. Donc, ce que je mets derrière ça, c'est que là, à ce jour, même nous dans Prescrimo, on donne une seule réponse pour des personnes qui ont des besoins en activité physique différents. C'est-à-dire que quel que soit le profil de la personne, on leur propose 6 mois d'activité. Et ça, à mon sens, il faut vraiment réussir à structurer des choses en mettant des gens en réseau qui ont des compétences différentes et variées et complémentaires. Donc voilà un petit peu, avec toujours l'objectif d'amener les gens vers un mode de vie actif, et ça dans les clubs, les associations, en autonomie, peu importe. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Monsieur Dupuis, donc, est-ce qu'il y a des questions ? Vous vous présentez en même temps, toujours pour l'enregistrement.
Maurice Autom, du Vocketball. Quand vous envoyez les gens vers vos partenaires sportifs, ils prennent un abonnement auprès du centre, ou c'est les personnes qui les reçoivent qui prennent en charge les frais d'inscription ?
Là, dans les structures qui répondent au cahier des charges dont j'ai parlé, reçoivent une subvention de la part de la région Poitou-Charentes et maintenant Nouvelle-Aquitaine, okay. Je ne sais pas encore non plus, qui est censée couvrir donc l'accompagnement, l'encadrement, et aussi la prise de licence quand c'est dans un club, ou alors l'inscription quand ce sont dans des salles privées.
Donc, voilà. Okay.
Donc merci. Les personnes voilà, sont... adhère ou on prend une adhésion pour elle. Ouais.
Je me dépêche. Isabelle Marsteau. Il n'y a pas de partenariat avec la CPAM.
À ce jour, il n'y a pas de partenariat avec la CPAM. Ce sont des choses qui existent sur d'autres dispositifs de prescription médicale d'activité physique. Voilà. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas encore rencontré la CPAM, même si je pense qu'ils seraient fortement intéressés.
Une question juste sur le modèle économique de Prescrimo. Vous êtes salarié, enfin, comment vous faites pour financer l'ensemble du dispositif au-delà des subventions ?
À ce jour, c'est un dispositif expérimental donc, qui est financé exclusivement par des institutions, donc la région Nouvelle-Aquitaine, et puis des aides à l'emploi par le biais de la DRJ-SCS. Et là, on est en réflexion sur le futur modèle économique post-expérimentation. L'expérimentation est courte jusqu'en juillet 2018. On est en réflexion et surtout sur la nécessité de créer une structure un peu comme vous avez fait avec le Fab Lab, hein, on va sûrement se revoir je pense,
c'est fait pour ça.
Voilà, exactement. Et pour voir justement quelle serait la meilleure structure, le meilleur statut pour porter ce genre d'expérimentation qui se veut transversale et avec un champ lié au monde médical, au sport, des liens avec les collectivités forts qui doivent exister parce qu'on utilise des équipements notamment, et qu'il y a des lieux de partage à avoir dans les collectivités, les city stalls, les pistes cyclables pour mettre les gens en activité.
J'écoutais l'autre jour, mais rapidement, une info comme quoi certaines mutuelles maintenant participaient aussi à ce mouvement, c'est-à-dire que la mutuelle remboursait la prescription.
Oui, c'est exact. Il y a quelques mutuelles qui se lancent là-dedans. On n'a pas encore rencontré non plus ces acteurs-là, mais ils regardent de près ce qui se fait dans la prescription d'activité physique. Et je pense qu'ils ont raison.
En étant dans la prévention, on peut quand même faire réaliser de grosses économies à la Sécu, je pense.
Bah, moi, mon opinion, c'est que la première partie, là justement, c'était d'être sur la prévention tertiaire, prévenir les maladies, enfin prévenir l'accentuation de la maladie. Et c'est pour ça qu'il y a eu un article de loi. Maintenant, il faut que ça aille vers de la prévention primaire et que l'activité physique soit considérée, normalement considérée déjà comme un acte préventif, mais que ce soit incité fortement par de la prescription médicale, pourquoi pas.
Merci en tout cas. Je vais rester, hein. Je vais appeler Denis Allôme. On va faire un bond en arrière, si j'ose dire. Mais je vais vous laisser le soin de nous expliquer pourquoi.
Bien, bonjour à tous. Merci d'être resté jusque-là. D'habitude, je commence mes présentations par dire que mon sport est un peu particulier. Aujourd'hui, je ne vais pas faire ça, puisque je n'ai pas vu beaucoup de sports classiques, standards. On n'est que sur du particulier aujourd'hui, donc c'est plutôt agréable. Alors, moi, je vais vous parler des AMHE, les arts martiaux historiques européens, et en particulier ce qu'on va pratiquer à Poitiers. Hop, voilà. Donc, ma présentation s'appelle « À la croisée de l'histoire et du sport », puisque c'est la spécificité de cette activité. Les arts martiaux historiques européens, c'est la définition officielle. Ce sont des sports, enfin, ce sont des arts martiaux européens, donc dans toute l'ère géographique européenne, historiques, dans le sens où ce sont des sports qui n'ont plus cours, sur lesquels il y a eu une rupture dans l'activité. Donc, du coup, on est sur une pratique entre guillemets figée. On sait à tel moment comment ça se pratiquait, et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est remettre en pratique ces différentes activités. Donc, historique, ça veut tout dire et rien dire. On est sur une plage historique très 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 large. Donc, traditionnellement, on commence avec les arts martiaux antiques. On considère qu'une activité martiale peut rentrer dans notre activité à partir du moment où on a des sources écrites. Des sources écrites, des sources vraiment, vraiment factuelles, pas vraiment sur une tradition orale, parce que là, tradition orale, on sait que ça évolue pas mal. Donc là, par exemple, on commence avec la gladiature. Gladiature sur laquelle on va se baser sur des récits, donc ici on le voit sur une lampe à huile, on voit un gladiateur qui est en train de porter un coup de bouclier à son adversaire avec son arme qui est en retrait pour ensuite venir attaquer. Et on a la même chose. Hop, ouais, ça se voit pas trop là. On a la même chose donc sur un stage qu'on a fait il y a quelques années. Donc le gladiateur qui porte le coup de la même manière avec l'arme en retrait. Donc on essaye de remettre en pratique à partir des différentes sources qu'on a, de réfléchir pourquoi est-ce qu'il est en train de porter un bouclier, porter un coup avec son bouclier. Donc là, ça amène toute une réflexion sur la forme du bouclier, sur sa poignée, etc. Pour remettre un peu en pratique tout ça. Donc on commence avec les arts martiaux antiques, mais ça peut aller jusque par exemple certains arts martiaux début du XXe siècle. Donc là, une petite anecdote, donc le bartitsu, donc qui est une version anglaise du jujitsu, Barton White a essayé de mettre en pratique un genre de self-défense à l'époque, à base de manteau, à base de chapeau claque, à base de parapluie. Donc c'est un sport, c'est l'anecdote, puisque c'est un sport qui a eu cours pendant 5-6 ans. Voilà, donc y a des gens malgré tout qui sont passionnés par ce sport et qui le remettent, qui le pratiquent aujourd'hui. Est presque plus important que ceux qu'il y avait à l'époque en fait. Pour nous, ce qu'on fait à Poitiers, donc on a différentes activités, du combat viking, donc là à partir des sagas. À partir également de tout ce qui est charnier, enfin tous les squelettes des différentes batailles, où on voit où est-ce qu'ils ont été blessés, et donc à partir de là, on essaie d'en déduire de quelle manière ils ont été blessés et pourquoi ils ont été blessés à ce niveau-là et pas ailleurs. Donc on voit les failles un petit peu de leur protection. On va faire également de la hache de pas, donc la hache de pas du 15e siècle. Donc ce qui est très important, on pratique dans un cadre sécurisé. On va pas se battre avec des épées tranchantes, on va pas se battre avec des... Voilà, on a des protections, on a aujourd'hui des simulateurs qui vont être moins dangereux que ce qui se faisait à l'époque. Donc par exemple ici, la hache de pas donc qui ressemble très fortement à celle-ci, enfin, à part le fer qui est un petit peu différent. On est sur des choses qui vont être souples, donc qui vont être moins dangereux, beaucoup moins dangereux, heureusement. On est sur des pratiques soit en civil, des gens sans protection particulière, où nous on va essayer de compléter avec des protections modernes mais qui n'entravent pas les mouvements. J'y reviendrai juste après. Et sur des pratiques également en armure médiévale, puisque là on est sur une arme médiévale. On va être également. Alors, notre activité principale. Les pélongues italiennes et allemandes, oui. Ah oui, c'est ce bouton-là. Ok. Donc les pélongues médiévales, où là on va être globalement sur les 15e et 16e siècles, donc les périodes d'utilisation d'une épée à deux mains. Il y a deux grandes écoles, l'école allemande avec le maître d'armes Lichtenauer et tous ses héritiers, et l'épée longue italienne avec Fiore de Liberi et autres. Donc on fait un petit peu les deux, globalement avec les mêmes épées. Et là pour le coup, par rapport à l'épée, avec une copie exacte, avec des copies exactes de ce qui s'utilisait à l'époque pour l'entraînement. Hein. On n'est pas sur les épées de guerre qui sont tranchantes. Les épées d'entraînement à l'époque étaient déjà sans aucun tranchant et également étaient très, très flexibles, ce qui permettait de pouvoir être utilisées sans être trop dangereuses. Donc à l'époque, ils utilisaient ça et c'est tout, hein, comme on le voit ici. Aujourd'hui, nous, on a une tolérance à la blessure qui est bien, bien moindre. On n'accepte pas d'avoir un doigt cassé en allant au bureau le lundi. Donc, on est obligé de compléter les protections. Malgré tout, les doigts cassés, ça arrive. Je me suis cassé deux fois le doigt en 10 ans. Donc, vous voyez, malgré tout, il y a quand même des petits risques. Donc, on a, au niveau des protections, il y a beaucoup de réutilisation de sports existants. Donc, par exemple, par rapport à la tête, on est sur l'utilisation d'un masque d'escrime, tout ce qu'il y a de plus standard, sur lequel on va compléter avec un surmasque, ici, parce qu'on prend des coups beaucoup plus violents que ce qu'on a à l'escrime moderne. Donc l'escrime moderne, mais que sur des coups de pointe qui vont venir en pleine face. Là, quand on va prendre des coups sur le côté, voire des coups sur la nuque, on va compléter la protection. De la même manière, au niveau des mains, on va assez facilement aller sur des protections de hockey, sur des gants de hockey, même si de plus en plus des gammes de matériel spécifiques sont en train de se concevoir. Donc, par exemple ici, au niveau des moufles, où on est sur des choses qui sont très très protectrices. Et sur la veste ici, la veste à MHO qui a... Alors là, ça ne se voit pas sur le mannequin, mais elle remonte vraiment au niveau de la gorge, ce qui permet de porter des estoques. Les estoques, c'est avec la pointe, donc porter des estoques à la gorge sans que ça passe sous le masque, n'est-ce pas? C'est mieux. Pardon? Là, c'est pas seulement le doigt cassé, tout à fait. Donc on y fait attention, donc du coup on a les solutions qui existent. Et puis on fait également du combat en armure. Hop. J'ai oublié la zapette. Oui, là. Et on fait également du combat en armure, où là, pour le coup, on utilise les mêmes protections de l'époque. On n'est pas sur des originaux, hein, c'est que des copies. Et on va pouvoir pratiquer un art martial violent, faut dire ce qui est, mais sans être blessé. Comme je dis toujours, c'est un art martial violent pour les gens douillés. Ce qui est mon cas. Donc du coup, on n'est pas sur des arts martiaux tels que la boxe ou autre, où on va assez facilement prendre des chocs. Là, on est vraiment blindé. Donc on n'a pas trop de problèmes. Pour parler quand même un peu plus dans la thématique du jour, à savoir les équipements sportifs. Pour ma part, je suis très content de l'équipe des équipements sportifs de Poitiers et de Grand Poitiers, puisqu'on pratique ça au sein de la salle Gérard Gachet. Donc, qui se trouve zone République. Au sein de la salle Gérard Gachet est prêtée à l'association du Foyer du Porto, dont on fait partie. Donc, Foyer du Porto, c'est une asso multi-activité qui occupe la salle toute la semaine sur différents créneaux, sur de la gym, du tarot, etc. Et depuis quelques années également pour du combat médiéval. Et puis, en plus de ça, on a pu avoir cette année, on va organiser pour la première fois une compétition sportive à Poitiers, où cette fois-ci, la salle Gérard Gachet, elle est très bien, on est très content de cette salle-là, mais le plafond est un petit peu bas. Donc quand on est sur des postures hautes, là, par exemple, ici, on est trop court, parce qu'on va toucher. Donc du coup, on ne peut pas pratiquer parfaitement bien pour une compétition, par exemple, ici non plus. Par contre, dans une salle de sport, là, ce sera vraiment adapté. Et en l'occurrence, la mairie de Poitiers nous a prêté la salle du Bois d'Amour pour pouvoir pratiquer Grand Poitiers nous a prêté la salle de sport du gymnase du Bois d'Amour en face Casto pour notre première compétition de combat médiéval à Poitiers. En tout cas, première depuis 500 ans, pour autant que je sache. Donc, pour les 24 et 25 juin. Ici, j'ai très fortement parlé de l'aspect sportif, mais il y a toute une démarche intellectuelle également préalable, puisque il n'y a pas aujourd'hui de maître d'armes. On n'a pas de maître d'armes de combat médiéval. Il y a des maîtres d'armes pour l'escrime moderne, pour le sabre, le fleuret, etc. Mais on n'a pas de maître d'armes de formateur pour l'épée longue ou pour la hache de pas, etc. Donc là, on s'appuie sur les traités d'escrime de l'époque. Donc du 15e siècle, 16e siècle. Donc certains, comme pour l'âge de pas, on a la chance d'en avoir en français médiéval. Donc c'est pas forcément évident, mais ça va encore. Faut juste se gratter la tête de temps en temps et puis enlever tous les S qui sont trop. Ou, voilà, on arrive à comprendre. Mais pour l'épée longue, je vous parlais tout à l'heure des écoles allemandes et des écoles italiennes. Bah, les manuscrits sont en allemand médiéval et en italien médiéval. Donc du coup, on est obligé. Alors, il y a eu des gens plus formés que moi qui ont fait des traductions, mais on va toujours chercher le terme historique, puisque c'est le terme historique qui nous permettra de communiquer sur des compétitions, sur des stages internationaux, où là, tout le monde a un vocabulaire commun. Sur la gladiature également, donc on en parlait ce midi, la gladiature, donc on a en France l'expert international sur la gladiature, Brice Lopez de la société ACTA, qui du coup, lui, est très fortement axé sur le latin, sur le grec de l'époque pour faire ses recherches et comprendre comment s'utilisent les différents armements, comment se structure la société de la gladiature, etc. Voilà, donc ça c'est, on va dire, toute la partie intellectuelle, c'est ce qu'on fait chez soi. On potasse tous notre bouquin, on essaye de réfléchir comment ça peut s'utiliser, etc. Et ensuite, à l'entraînement, on confronte les opinions des uns et des autres. Voilà. Même si aujourd'hui, il existe depuis quelques années une fédération, la Fédération Française d'Arts Martiaux Historiques Européens, FFAMHE, depuis 5 ans. Donc là, on commence à avoir des gens qui ont vraiment bien travaillé certains sujets, certaines armes, qu'on fait venir régulièrement à Poitiers. On organise 2 à 3 stages par an. Donc on fait venir des professionnels pour nous apprendre ces choses-là et pas réinventer l'eau chaude. Voilà, puisque eux ont déjà travaillé. Après, ce qui ne nous empêche pas, et c'est ça qui est également intéressant, ce qui ne nous empêche pas d'avoir notre propre interprétation. Puisque ces gens-là, ces experts, ne se posent pas en ayant la vérité. Voilà, ils ne détiennent pas la vérité. Aucun des pratiquants ne détient la vérité. Chacun peut avoir une interprétation plus ou moins cohérente, plus ou moins pertinente. Mais c'est ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on ne saura jamais qui a la vérité, qui est la vraie vérité. Donc du coup, chacun peut même défricher des nouvelles armes, défricher des nouveaux manuscrits qui sont chaque jour traduits, chaque jour sortis d'obscures bibliothèques, ce qui nous permet d'avoir toujours du grain à moudre. Voilà. Donc la compétition est ouverte à tous, compétition gratuite, le public peut venir n'importe quand sur les 2 jours. Le samedi, c'est de l'épée longue. Comme on voit là, le dimanche sera de l'épée longue et de la hache de pas et de la lance. Oui, on fait des compétitions avec ça. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas trop de blessés. Donc n'hésitez pas à venir, c'est assez sympathique. Et si vous souhaitez participer, pardon. Alors, on a des hommes et des femmes. Il n'y a vraiment aucun problème. Il y a des hommes et des femmes, on a une majorité d'hommes, il faut dire ce qui est. Et on est sur un profil d'âge. Cette année, on est assez large, puisqu'on va de 9 ans à 49 ans. Voilà, donc c'est pas mal. 9 ans et 49 ans, c'est un père qui vient avec son fils. Voilà. Voilà pour ma présentation. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des peurs, n'hésitez pas. Voilà, je suis à votre écoute.
Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ?
Ok, donc Thibault, président de l'association Voquetball. Juste une question au niveau de la fédération. Vous avez fait quoi ? Vous êtes affilié à une fédé déjà existante ou vous avez créé votre fédération ?
Alors, en ce qui me concerne, je suis le mauvais exemple, puisque en la matière, moi, j'ai pas du tout. J'ai cherché avant tout à pratiquer dans mon coin. C'était que très récemment que j'ai rejoint la fédération. Je pratique ce sport depuis maintenant plus de 10 ans, donc bien avant la création de la fédération. Mais je n'ai pas personnellement de grandes causes de la MHE à défendre et à porter. Et la fédération, je l'ai vue naître en jetant un œil un peu comme ça se passait. La fédération s'est créée à partir vraiment des pratiquants. C'est lors d'un stage différents clubs de toute la France se réunissaient régulièrement, un stage limite traditionnel puisqu'il avait lieu depuis des années et des années, où ils ont constitué la fédération. Voilà, donc là pour le coup on est vraiment dans la définition, la vraie définition d'une fédération, un regroupement de personnes. Pour l'aspect administratif, je crois qu'ils sont encore sur une asso loi 1901. On n'a pas encore d'agrément ministériel, puisque on est à cheval sur deux ministères finalement. Enfin, je sais pas maintenant s'ils s'appellent comme ça, mais on fait du sport et de la culture. Donc, auprès de qui est-ce qu'on est censé s'affilier ? Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Depuis quelques jours, on a une ministre des Sports qui fait de l'escrime. Enfin, qui a fait l'escrime, et donc du coup, peut-être que ça aura une position qui nous permettra d'avancer un peu à ce niveau-là. Oui, mais bon, elle sera pas totalement dépaysée quand on lui montrera une épée à deux mains.
Bien. Écoutez, on peut poursuivre l'échange de toute façon entre nous. Je voulais tout d'abord remercier les participants que vous êtes, et puis les intervenants qui ont respecté très bien l'horaire, donc ce qui nous permet de conclure dans les heures que nous concluions de façon générale, en étant moins nombreux, mais il semblait difficile d'éliminer un intervenant aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde était très complémentaire dans l'intervention et par rapport au thème. Juste également vous dire qu'il y a un programme, évidemment, puisqu'il y a une table ronde par mois. On en aura deux la semaine prochaine, puisqu'il y a la Foire Expo, et on en aura une sur la philo. Mais toujours dans le même esprit, vous l'avez compris, c'est pas la philo académique, c'est la philo en dehors des sentiers battus. Ça peut être de la philosophie au jardin, ça peut être de la philosophie pour les enfants, etc. Et le matin, sur les territoires où on peut créer 100% d'activité. Enfin voilà, c'est notre utopie. Et enfin, juste, on a un petit scoopit qu'on alimente régulièrement, Céline et moi-même et d'autres. Et là, j'avais fait allusion à l'encyclopédie des sports oubliés, ce qui ne doit pas être triste parce qu'il doit y avoir des choses assez intéressantes à regarder. Voilà, merci en tout cas et bon courage et bonne soirée.